Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je vois pas pourquoi ils aimeraient. Après, oui, hier, il aurait peut-être pu être un peu plus efficace.
Comment on dit breaking news en allemand, mon cher Polo?
Bah, breaking news.
D'accord, merci.
Les deux personnes sont équivalentes dans leur pensée.
Oui, très bien. C'est voilà. Ton avis. Moi, je pense que c'est un avis éclaté, mais c'est ton avis.
Oui, en direct du stade King Abdallah, ici à Jeddah.
20h-22h, Génération After.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, Génération After jusqu'à 22h et l'After jusqu'à minuit, 4h d'After, 4h de foot comme tous les lundis, en direct avec vous au 32-16, avec vous sur Direct Studio bien sûr, et comme tous les lundis, et pour une nouvelle saison, la coutume se perpétue. Les drôles de dames sont là, jingle. Ils sont là, enfin presque tous, il y en a un qui est à la bourre, il sera fouetté, il sera châtié. Fred Hermel, lui, est là, fidèle au poste. Salut, Fredo.
Hola, chicos. Et ça te rajeunit quand même, hein, présenter les drôles de dames.
Bah écoute.
T'avais des cheveux la dernière fois, non?
Mais j'ai pas fait les dernières une fois, non?
Non, non.
Peut-être.
Non. Plus. Non, 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 non.
Ou. On va prendre que là dans l'after tout le temps. C'est pas comme si.
Ouais, mais ça fait bizarre comme
ça.
C'est
pas comme si je vous écoutais pas.
T'es plutôt.
Yoann Crochet, bonsoir.
Salut, Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et Polo Breiter, salut, Polo.
Bonsoir, mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Si vous avez des nouvelles de Julien Laurence,
pouvez-vous dire. Il faut l'île de Ré, non, peut-être.
Pouvez-vous dire qu'on l'attend depuis deux minutes.
Il est en train d'ouvrir des huîtres à l'île de
Ré. Ah, c'est pour ça. Évidemment, on va parler de Mbappé, évidemment, on va parler de la reprise de la Bundesliga, de Dybala et autres, Manchester United dans les drôles de dames ce soir. Mais, vous savez que quand Nicolas Jamin est à ma place, il fait toujours des entrées en matière tonitruantes, préparées dès le matin 9h30. Vu que je vous connais depuis le début, je me suis dit, il fallait quand même rappeler à tous les auditeurs que vous êtes des spécialistes, des ultra spécialistes de vos pays. Donc j'ai préparé une interro surprise.
Ah, oh là là.
Aussi, bien sûr que personne n'est au courant.
Je déteste ça.
Tu détestes ça?
À l'école, quand on disait interro surprise. C'est quand on était passage, en fait.
Bah tiens, Polo, je vais démarrer par toi. En fait, l'idée de l'interro surprise, c'est que les gens comprennent bien que vous êtes imprenable. Que si, par exemple, Polo, je te demande quel est le latéral droit de Sampaoli promu cette année en Bundesliga, t'es capable de me dire qui c'est?
Alors, latéral droit, c'est pas possible parce que c'est une défense à 3, donc c'est un piston droit.
Oh, il y avait un piège en plus.
Ah oui, joli.
Celui, alors ce sera l'international grec Saliakas qui sera le titulaire à droite, y compris chez Blessin. Il l'a annoncé d'ailleurs, mais il était sur le banc, il est rentré dans le dernier quart d'heure. Mais là, c'est Philippe Troyeux qui est plutôt le piston gauche qui a joué ce week-end et en Coupe d'Allemagne.
Voilà. Vous l'avez dit, Polo est imprenable. Interro surprise, Yoann Crochet, quel est le CV du coach actuel de Lecce?
Luca Gotti. Alors, premier élément déjà qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu le sosie moisi ou le léger sosie de Laurent Blanc. Voilà, déjà, c'est son premier fait d'armes. Et ensuite, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une grande carrière de footballeur puisqu'il a été simplement amateur. Et aujourd'hui, il est à Lecce, il a été à l'Udinese. C'est surtout quelqu'un qui a été adjoint pendant de longues années, adjoint de Roberto Donadoni, adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea et adjoint d'Igor Tudor, qu'on avait connu aussi en France, à l'Udinese. Il avait pris la suite de Tudor quand il s'était fait débarquer.
Interro surprise maintenant pour Fred. Fred, j'aimerais savoir si le français Loyodis, un des français les moins connus de Liga, va jouer régulièrement avec Las Palmas cette année.
Mais s'il est un peu connu quand même, Enzo. Enzo Loyodis, Loyodis, c'est grandi en espagnol. Il a prolongé avec Las Palmas parce qu'ils ont peur de le voir partir. Ils ont surtout peur de le voir partir gratuitement. Donc parce que en fait il a été on l'a commencé à le connaître en Espagne parce qu'il est arrivé pour l'année, il a été très important dans l'année de la montée. Donc ils sont montés Las Palmas il y a un peu plus d'un an. Donc non, il va jouer. Et d'ailleurs, je vais essayer de l'avoir pour lundi prochain dans l'after, parce qu'il joue contre Mbappé jeudi soir. Voilà. Vous savez ça, on va voir s'il va pouvoir nous raconter d'Mbappé. J'espère qu'à Las Palmas, ils seront sympas et qu'ils ils accepteront, parce que les Espagnols sont comme tous les clubs, ils sont assez fermés pour laisser passer de parler leurs joueurs, mais voilà. Donc j'aimerais bien qu'on l'ait lundi soir prochain.
Bravo, que le prochain qui me dit que Fred Hermel n'est capable de parler que du Real, que Johan n'est capable de parler que de la Juve et que Polo n'est capable de parler que du Bayern m'appelle.
Après, Las Palmas, c'est sympa.
Alors là, c'est le jour où quelqu'un me dit que je suis capable que de parler que du Bayern, alors que je rêve qu'on fasse une émission sans parler du Bayern.
C'est impressionnant, ça. Bah ouais, mais bon, t'es obligé de parler du Bayern, ça reste ton club numéro 1, ta tête de gondole, ton navire amiral, ta locomotive.
Non. Bah, celui que tu vas avoir tout le temps en Ligue des Champions.
Ton Graal, ton phare, quoi. Voilà. Bon, en attendant Julien Laurence, hein, c'est les Anglais, ils sont toujours un peu désirés.
Bah, une heure de retard, hein, c'est normal.
On va démarrer, c'est pas faux, on va démarrer avec Mbappé parce que, alors, excusez-moi, Johan, je vois, il fait sa tête là.
Ouais, pareil, j'ai la même tête que Johan. C'était sympa, c'était 22h à minuit, quoi. Pardon, c'était sympa.
Préparez-vous.
Bah, comme disait Stéphane Guy, le génie français, le meilleur joueur du monde, est aujourd'hui à Madrid, et donc en Espagne. Donc, et il est déjà critiqué. Fred, mais comment est-ce possible? Comment est-ce acceptable?
Non, mais je veux dire, les petites critiques qu'il y a pu avoir dans la presse sur Mbappé, mais je veux dire, c'est du. J'allais dire du pipi de chat, j'ai trouvé un plus joli terme. De la roupie de Sansonnet. Ah oui. De la roupie de Sansonnet par rapport à ce que c'est pris Zidane pendant 6 mois à l'époque, j'y étais, je me souviens. Parce qu'à l'époque, Zidane était le joueur le plus cher de l'histoire du football, 75 millions d'euros. À l'époque, c'était des pesettes. Non, c'était déjà des euros, 75 millions d'euros. Et les gens, voilà, Zidane a mis 6 mois avant de trouver vraiment sa place dans le 11 du Real. Il s'en était pris plein la gueule. Les gens se disaient, mais quelle erreur a fait le Florentino Pérez de payer autant d'argent pour un joueur qui ne fonctionne pas au Real Madrid, etc. Et je vous rappelle pas, je parle pas d'Anelka, je vous parle pas de Benzema. Ça a mis plusieurs années avant de se faire vraiment accepter. Et il est aujourd'hui dans la légende du Real Madrid. Non, franchement. Il faut savoir lire la presse espagnole. Et puis surtout, la presse espagnole, elle est, je trouve que c'est plutôt la presse française qui se dit, oh là, Mbappé est sorti à la 86e et c'est là où le Real a déroulé. Nanana. Rodrigo et Vinicius étaient sortis aussi. Et surtout, Valladolid, qui ont joué à 11 derrière pendant tout le match. Bah, ils commencent à être un peu fatigués. Ils s'étaient déjà pris un but. Il fallait qu'ils sortent un petit peu. Et c'est là où le Real en contre a été létal. Parce que le joueur c'est pas du tout la sortie. Moi, quand je vois les commentaires qu'il y a eu, la sortie d'Mbappé qui a facilité que le Real fonctionne, non, c'est pas vrai. C'est qu'ils ont fait rentrer des mecs fringants face à une équipe de Valladolid qui avait couru derrière la balle pendant toute la rencontre. Donc, oui, il y a des critiques sur Mbappé, mais des critiques qui sont tout à fait logiques. Parce qu'il n'a pas fait un grand match et que le Real n'a pas fait un grand match. Que les titulaires habituels, ni Rodrigo, ni Vinicius, n'ont fait de grands, grands matchs. C'est-à-dire 90 minutes à fond. Donc c'est totalement idiot de vouloir juger Mbappé là-dessus. Pour moi, ce qui compte, c'est ce qui me remonte du vestiaire. Vous savez que j'ai quelques contacts dans ce vestiaire, dans le staff. Et il y a zéro inquiétude au sujet d'Mbappé. Mais quand je dis zéro, c'est zéro. Voilà, c'est-à-dire que Mbappé travaille bien l'entraînement. D'ailleurs, moi je trouve que physiquement, vous vous souvenez ce qu'on disait d'Mbappé au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, physiquement, vous le regardez là, bah c'est un autre joueur. Et puis surtout,
peut-être
je crois qu'il
se sent autrement désiré déjà.
Bah oui, puis il y a aussi une préparation physique qui est en train d'être faite avec un type qu'on connaît bien, que Johan connaît bien, qui s'appelle Antonio Pintus. Il prépare pas Mbappé pour qu'il soit bon, même contre la Spalma jeudi. Il prépare Mbappé pour qu'il commence à être très très fort au mois de mars. Voilà, quand les matchs importants vont être.
Non, mais alors, ça veut dire qu'en Espagne, quel va être son crédit? Jusqu'à combien de matchs il peut faire sans marquer et sans être forcément.
Il a déjà marqué. Il a marqué dès son premier match. Et c'est un match de titre, la Supercoupe d'Europe.
Mais là, c'est en Liga, je te parle.
Oui, mais de toute façon, Vinicius. On attend aussi Vinicius, on attend aussi Rodrigo. Bellingham est blessé pendant un mois. Je veux dire, il faut savoir. Vous connaissez les Espagnols, la presse espagnole. Je sais, moi, j'écris encore dans As 2 fois par semaine. C'est une presse passionnée. C'est une presse qui va détester un joueur. Enfin, qui va. C'est l'amour qui, quand un joueur est pas bon, mais parce qu'on l'aime, on va être plus dur avec lui. Et quand il fait un truc plutôt bien, ça y est, il va être encensé, on va dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il y a une exagération hispanique liée à la culture. Et ça, il faut dans un sens comme dans l'autre. Donc ça y est, mon ami Tomás Roncelo, par exemple, qui est quand même le grand journaliste espagnol pro-Real, qui est le supporter numéro 1 du Real. Mais après le match, contre Valladolid, il voulait mettre Mbappé, Rodrigo, Vinicius sur le banc pour mettre Brahim, Güler et Hendrik, parce que les mecs réagissent comme des supporters. Ils sont à chaud après un match, genre, ouais, les plus jeunes là, ils se battent plus, etc. Voilà, mais c'est normal. Donc là, c'était quand c'était le match, c'est dimanche après-midi. Là, on est lundi soir, on se calme un petit peu, on regarde des choses et puis on essaie d'analyser d'un point de vue purement footballistique. Je pense que Mbappé découvre aussi que le foot espagnol n'est pas aussi ouvert qu'il ne pouvait l'imaginer. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas si vous avez regardé le match.
Ça fait un moment qu'il n'est plus très ouvert, le foot
espagnol. Ben, voilà, tu regardes la semaine dernière à Majorque, ben, ils sont quand même derrière tout le temps. Là, en plus, Valladolid, un promu qui joue à Bernabéu, où il y a toute l'artillerie devant, mais les mecs, le Real a quasiment 70% de possession, et c'est 70% de possession quasiment à la limite de la surface de réparation de Valladolid. Donc on se retrouve avec un Mbappé qui doit... En fait, Mbappé dans les petits espaces, c'est plus compliqué. On le sait, il a besoin d'un petit peu besoin d'espace. Il n'y a pas cet espace-là. L'espace est venu un peu après, quand le Real, en deuxième période, a marqué le premier but, sur coup franc. C'est un coup franc de Valverde qui a permis d'ouvrir un petit peu. Sinon, voilà. Donc, il doit s'adapter aussi à des équipes qui, et du fait d'Mbappé, et le fait que cette équipe, elle est ultra-offensive, et bien les équipes en face vont être de plus en plus défensives. Et donc, je vous parlerai tout à l'heure de Retafé dans ma minute, etc. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent, et parce qu'il y a de grosses différences de niveau, qui joue derrière. Donc, il va devoir apprendre.
Mais ça, culturellement, en Espagne, justement, on avait plutôt l'inverse.
Oui, mais ça évolue.
Des équipes qui allaient à Barcelone, à Madrid, un peu culottées.
Oui, mais c'est pas. Non, mais il y en a.
Vous avez récupéré tous nos entraîneurs qu'on veut en Ligue 1. Parce que nous, maintenant, en Ligue 1, il y a l'effet inverse qui se produit. Vous avez remarqué, il y a plus de jeux.
Ouais, mais après, moi, je me souviens à l'époque, comment il s'appelait. On s'était engueulé une fois en conférence de presse.
Sur ça, il faudra quand même.
On t'a renvoyé tous les Poyet, René Girard et compagnie.
Il faudra regarder, je pense, l'influence qu'aura Simeone sur la Liga. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont vu ce qu'a fait Simeone. Et comme toujours, il y a des tendances qui se dessinent de ceux qui réussissent. Et c'est pas simplement les gros qui réussissent, c'est aussi ceux qui dépassent leurs objectifs, qui parviennent à aller au-delà de ce qu'ils imaginaient être possible quelques années auparavant. Et moi, je pense qu'il y aura des disciples de Simeone qui vont arriver petit à petit en Espagne.
Oui, mais de toute façon,
ils sont déjà peut-être.
Mais après, tu peux pas reprocher à Valladolid, qui est un promu, qui arrive au Bernabéu pour le premier match Mbappé, de pas tous être derrière. Ça a failli marcher. Ça a tenu pour moi pendant 50 minutes. Bon, voilà, après, mais je pense qu'il faut, du temps. En plus, Mbappé doit s'adapter à son nouveau pays, même s'il parle magnifiquement bien la langue, tu l'as déjà précisé. Même si Mbappé, moi, ce qu'on me dit au sein du vestiaire, c'est qu'il est parfait, que tout va bien. Le mec, il travaille. Le mec est sympa, le mec il parle la langue, le mec il est copain avec tout le monde, il n'a pas arrivé avec la grosse tête, parce que c'est quand même ce qu'on lui reproche à Paris. Donc voilà, si Ancelotti s'inquiète, j'ai quand même pas m'inquiéter moi, quoi. Tu comprends? Enfin,
je comprends.
Si Ancelotti ne s'inquiète pas, j'ai quand même pas m'inquiéter moi. Après, il y a aussi les autres qui doivent s'adapter à lui. Parce que tu joues pas pareil quand t'as Mbappé que quand t'as pas Mbappé. Après aussi la question, et j'en terminerai là-dessus, son positionnement. Oui, là, il est en position numéro 9. Avec Rodrigo à droite, avec Vinicius à gauche. Moi, je suis persuadé que là, c'est le début de saison, il faut que les mecs prennent jouent, etc. Mais quand les matchs importants vont arriver, ça m'étonnerait que le Real Madrid joue avec les trois devant.
Ah. Et qui va être sacrifié?
Rodrigo. Après, ça va souvent tourner. Mais je pense que régulièrement, on aura Rodrigo en joker sur le banc, avec Bellingham derrière les deux, comme vous savez, comme il jouait l'an dernier avec l'espèce de losange, et puis les deux devant, qui étaient Rodrigo et Vinicius. Là, je pense que à partir du moment où ils seront tous les deux, Vini sera beaucoup plus facile de permuter entre la gauche, la droite, le milieu, etc. Avec quand ils seront que deux, Vinicius et Mbappé, que là avec trois. Donc ça aussi, ça va évoluer. On est au tout début de la saison. Donc moi, je pense que oui, Ancelotti est en train de réfléchir à tout ça avec son fils Davide qui travaille beaucoup la question tactique. Ils sont ils doivent réfléchir à ça, mais c'est normal. Ce ne serait pas normal qu'Mbappé s'intègre dans cette équipe au bout de deux matchs, ça ne nous arrive pas. Vous allez me dire, ah ouais, c'est arrivé l'an dernier avec Bellingham. Oui, mais parce que Bellingham, il a trouvé tout de suite la solution. C'est de le monter, le mettre en haut de ce logement, le monter par rapport à ce qu'il jouait avant. Voilà, ça, et ça a pris tout de suite. Sauf que, qu'est-ce qu'on a dit de Bellingham jusqu'à Noël? Fabuleux, quelle intégration extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a dit de Bellingham après Noël? Mauvaise deuxième partie de saison. Donc voilà, l'intégration d'Mbappé, elle sera peut-être un peu plus tardive, mais elle sera peut-être plus importante parce qu'elle sera dans les matchs décisifs.
Et oui, vous allez en bouffer du Mbappé dans les drôles de dames tous les lundis soirs désormais. Avant, c'était à 22h. Maintenant, c'est pour les gars. Voilà, Polo. Puis il va peut-être débarquer bientôt chez toi en Ligue des Champions.
Hermel et Mbappé sont surcotés. Moi, ça me fait
assez plaisir. On dit ça sur le chat YouTube.
Hermel et Mbappé sont surcotés. Oui, bah, pourquoi pas.
Bah, écoute. Et pourtant, quelle carrière respective?
C'est-à-dire que, tu sais, l'important, c'est de durer. Et pour l'instant, la carrière de Mbappé est beaucoup plus courte que la mienne.
Julien Laurent, c'est là, les gars. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Désolé pour le retard, j'ai mis un peu de temps pour entrer de la plage.
T'as raté l'interro surprise qui prouve à tous les auditeurs de l'after en cette rentrée que vous êtes imprenable sur votre championnat. Donc interro surprise pour toi, quelle est la capacité du stade d'Ipswich?
22 000 places.
Bon, peut-être aller vérifier s'il n'est pas. Vérifier pendant la pub. Et ensuite, on enchaîne, on va parler de Bundesliga, parce que la reprise, c'était ce week-end, évidemment, avec Leverkusen, que Polo a vu avec passion. Et on parlera ensuite de Dybala, bien sûr, de Manchester United, les minutes traditionnelles des drôles de dames. On se retrouve dans quelques secondes sur RMC, dans Génération After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
20h19, comme tous les lundis, les drôles de dames sont là. Nouvelle saison, les drôles de dames, avec nouvelle Coupe d'Europe aussi. Hein. Vous savez que le tirage au sort, c'est dans les jours qui viennent, avec cette nouvelle formule, un tirage au sort New Look également, avec un ordinateur qui va décider. Je pense que Polo, ça doit lui plaire, ça. L'ordinateur qui décide des poules.
Bon, bah, il n'y a plus ça de boules chaudes et froides.
Il y a même plus, on peut rester à la maison, c'est cool.
Bientôt, ils vont décider des matchs.
Et Fred a raison, il n'y a plus besoin de boules chaudes ou froides, il le fait tout seul.
Ouais, ouais,
voilà. Bon, après, avant, c'était Infantino. Maintenant qu'on connaît mieux Infantino, est-ce que finalement l'ordinateur, c'est pas mieux qu'Infantino? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce sera là, à la fin de la semaine, le tirage au sort avec la nouvelle formule qui démarre mi-septembre. Les drôles de l'âme sont là. Le 32-16 est ouvert, je vous le rappelle. Direct-Su est également disponible si vous voulez nous envoyer des messages par écrit, par l'intermédiaire des applis RMC et RMC Sport. La Bundesliga a repris avec un Leverkusen qui a l'air déjà de marcher sur l'eau, Polo.
Ouais, c'est intéressant parce que pendant des années, on a dit il y a le Bayern et les autres. Et après avoir regardé évidemment tous les matchs de ce week-end et notamment des favoris pour le titre, t'as l'impression que tu peux dire le Bayern, t'enlèves le N et les autres. Parce que le niveau de performance de quatre équipes notamment, donc Leipzig, Dortmund, Bayern et Bayern, n'est pas du tout le même. Donc il y a quatre victoires, donc il y a avertissement sans frais, j'ai envie de dire, pour les trois autres, hors Leverkusen. Je vais pas redire ce que j'ai dit vendredi pour Leverkusen, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la nouvelle assurance de Leverkusen se transforme en suffisance, en arrogance. Mais lorsque je regarde la première sortie de compagnie, nouveau coach du Bayern Munich, et on se rappelle le temps qu'a mis le Bayern pour trouver son nouveau coach à Wolfsburg, moi j'ai rien vu vraiment de nouveau. C'est-à-dire qu'on a le même schéma de jeu que sous Thomas Tuchel, donc un 4-2-3-1 avec Moussiala en meneur de jeu. J'ai revu les mêmes erreurs défensives, et notamment Minier, ça commence à devenir assez dramatique. Lui qui était si fort en Bundesliga, je m'excuse, j'ai perdu le nom du joueur allemand qui parlait de Minier et qui disait qu'il était si fort en Bundesliga, et là il est dramatique à l'image de ce qu'il a fait un peu l'année dernière. Le Bayern qui s'est écroulé après une première mi-temps globalement dominée, qui s'écroule en seconde mi-temps et qui a la force de revenir. Très bonne rentrée quand même pour sa première d'Olysée pour le Bayern. C'est la seule, j'ai envie de dire,
qui pourrait être en équipe de France dès la semaine prochaine.
Ouais, apparemment, c'est
la rumeur.
Pourrait être appelé. Mais si tu veux, quand tu vois Sacha Boré, qui, moi, que j'adorais à Galatasaray, mais évidemment, le championnat turc, c'est pas la Bundesliga et c'est pas le Bayern surtout, la différence de niveau entre la première et la seconde mi-temps, c'est un petit peu dommage parce qu'il avait vraiment une chance d'être titulaire, puisque Masraoui est parti. J'ai du mal à comprendre ce que veut mettre en place pour l'instant Kompany, et je ne vois que les défauts du Bayern version 2023-2024. Kompany, le Belge, a 5 semaines pour augmenter le niveau du Bayern, parce que à la 5e journée, c'est le choc contre Leverkusen. Donc il a un mois pour travailler. Honnêtement, j'ai pas envie d'être trop pessimiste, mais j'ai pas bien vu des choses qui m'ont plu, d'autant plus que Kimmich est revenu au milieu de terrain. Donc on pensait cette thématique définitivement enterrée, il est là. Et moi, ce qui m'embête encore une fois par rapport au Bayern, c'est on a parlé de quoi ? On parle de la retraite internationale de Manuel Neuer à 38 ans. On parle de celui qui est encore l'éternel Thomas Müller, qui a été excellent en Coupe d'Allemagne. Et si tu veux, j'aimerais bien voir les nouvelles générations prendre le pouvoir au Bayern Munich. Donc c'est pour ça que je les mets très clairement en ce moment, à l'instant T évidemment, derrière Leverkusen. Ensuite, il y a un autre coach qui est arrivé, ancien de la maison Dortmund, c'est Nuri Sahin, l'ancien international turc, qui était de la période Jürgen Klopp, évidemment, lorsque Jürgen Klopp était coach à Dortmund, qui lui, alors j'ai strictement rien compris, le décalage entre sa conférence de presse exceptionnelle comme un prof d'université qui t'explique comment fonctionne le monde, et ce que j'ai vu sur le terrain, défense à 3 avec un quatrième défenseur. Donc en fait, si vous voulez, lorsqu'il a le ballon, on se retrouve dans une défense à 3, Schlotterberg, Zule et Anton, qui est transfuge de Stuttgart, et lorsqu'il perd le ballon, on se retrouve avec Lierson qui se retrouve aux positions d'arrière droit. Des ballons perdus un peu dans tous les sens, et heureusement, un petit prodige que doit connaître connaître Julien, qui est Gittens, Bonny Gittens, qui est arrivé et qui, en fait, c'est une solution individuelle qui a solutionné le Borussia Dortmund contre un très beau Francfort. Le match était très moyen, honnêtement. On attend beaucoup mieux du Borussia Dortmund. Et puis, la quatrième équipe, Marco Rose, avec Leipzig, qui a eu des difficultés pour l'emporter contre Bochum, qui est plus un club, même si c'est mon ami Peter Zeidler pour la seconde partie de classement de la Bundesliga, qui avec un 11 sans véritable nouveau, n'a rien produit d'exceptionnel, a eu beaucoup de difficultés à se trouver sur le terrain, et qui aurait même pu se faire contrer dans quelques occasions. Et là aussi, un petit prodige norvégien que doit connaître Johan, Nusa, qui est arrivé en provenance de Bruges, qui est entré en deuxième mi-temps, et qui a solutionné. Donc Leipzig, Dortmund, Bayern, avertissement sans prêt. Je suis un petit peu inquiet pour le Bayern Munich, qui d'ailleurs fait profil très bas médiatiquement par rapport à Leverkusen.
Johan, Polo, ça va recruter au milieu ou pas dans les derniers jours au Bayern? Parce que, ok, l'arrivée de Palinha, je pense que ça va résoudre pas mal de choses. Mais encore sur ce match-là, c'est dramatique en phase sans ballon. Et si les défenseurs sont autant... alors là, bon, Kim, c'est un peu différent parce que c'est sur une phase de construction. D'ailleurs, Upamecano fait plus ou moins la même 10 minutes après, je crois, ou un quart d'heure après, plus exactement. S'ils sont autant exposés, c'est aussi parce que au milieu, moi je trouve, mais ça fait des années que depuis la fin du grand Goretzka, période Covid, qui avait pris 20 kilos de muscles et qui marchait sur tout le monde, c'est problématique. Enfin, là, je vérifie encore parce que j'étais pas sûr d'avoir eu tous les transferts du Bayern. Tu vas faire donc toute la saison avec Palinha, Goretzka, ils en veulent plus, Kimmich, Pavlovic et Leimer.
Et Leimer, mais en fait Leimer c'est pas mal non plus. Mais le problème c'est pas. Enfin, j'ai été très méchant avec le Bayern à Wolfsburg, mais Wolfsburg a quand même une vocation à aller se battre en Europe le jour où ils voudront bien jouer au football. Mais le Bayern quand même est dans une période de transition qui dure et qui est compliquée. C'est ce que moi je disais, ça fait deux ans sur les antennes d'RMC que je dis le fameux Super Bayern est mort. Et je pense même que le titre en Ligue des Champions en 2020 est très. C'est pas qu'il est chanceux parce que ce qu'a fait Hansi Flick est extraordinaire. Mais remporter 21 matchs à la suite pour aller chercher le titre, la coupe et la Ligue des Champions, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Et comme j'emploie toujours le mot extraordinaire, comme quoi c'est pas ordinaire. Après, ça a redescendu et quels que soient les coachs, Nagelsmann, Tuchel ou aujourd'hui compagnie, je pense qu'il y a un problème structurel au Bayern Munich. Et donc, il y a peut-être aussi un problème de niveau. Tout simplement. Depuis 15 ans, le Bayern, les grands succès du Bayern, c'est les ailiers. Et les ailiers, tu peux en parler aux supporters du Bayern, c'est Robben et Ribéry. Et Kingsley Coman, on peut dire ce qu'on veut, c'est un petit Ribéry. Le milieu de terrain, on oublie, mais les Philipp Lahm, Schweinsteiger et tout ça, ça commence à faire un bout de temps. Et si tu veux, on se retrouve pas... je rappelle, Kimmich était au poste d'arrière-droit lors de la finale de Ligue des Champions en 2020, puisque Pavard était blessé, était sur le banc. Donc c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a toute une transition à faire au Bayern, que le football a évolué. Et ben on sait peut-être cette décennie extraordinaire du Bayern, c'est un peu compliqué de changer. Je rappelle toujours la structure de la masse salariale aussi, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec Lucas Hernandez, c'est-à-dire ce fameux transfert à 80 millions où on a surpayé des joueurs aujourd'hui qui sont finalement des excellents joueurs de football, c'est pas la question, mais pas des superstars comme on voudrait. Et lorsque je vois aujourd'hui par exemple le Real, qui la façon dont ils arrivent à aller chercher Kylian Mbappé gratuitement, enfin entre guillemets, etc., et qu'ils arrivent à avoir toujours Vinicius et tout ça, je pense que le Bayern a beaucoup de problèmes dans les bureaux et c'est toute la stratégie des dernières années qui est à révolutionner.
Par rapport à ça, tu sais, dans les bureaux, il faut avoir un très bon recruteur. Et le Real a fait un recrutement, un type qui s'appelle Juni Calafat, moi je l'ai depuis très très longtemps, j'ai commenté des matchs à la télé en Espagne avec lui. Le mec, il est très très fort, il est hispano-brésilien, c'est lui qui est allé faire signer des mecs à 15-16 ans, les Vinicius, les Hendrick. On m'a posé beaucoup de questions d'Hendrick. D'Hendrick, on y reviendra souvent. On a l'impression de voir Romario sur le terrain. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je vous promets, les gars, qu'il n'y a pas de question.
La moitié de la cadre, Romario. Ouais.
Et de danser aussi bien la samba la veille des matchs ou la salsa. Mais il faut aussi avoir un bon recruteur à qui tu fais confiance. Parce que quand tu es Florentino Pérez, quand t'es Rosario Sanchez, qu'on te dit tu vas mettre 30 millions sur un gamin de 15 ans au Brésil que tu vas pouvoir ramener que dans 3 ans, il faut faire confiance à ton recruteur.
Ouais, voilà. Au Bayern, on le sait que ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde décide ensemble. Il y a c'est par exemple, je l'ai dit tout le temps, l'anecdote où Lyonnais, dès qu'il y a un transfert qui a plus de 20 millions d'euros, alors que théoriquement il n'a plus de pouvoir au sein de la société commerciale Bayern Munich, il est membre toujours de l'association, et ben, on lui demande son avis. Donc, chacun donne un petit peu son avis au Bayern Munich, et ça a toujours fonctionné comme ça.
Enfin, le problème, c'est au final, il y a quand même un gars qui tranche.
Ah non, ça marche pas comme ça au Bayern Munich.
Ah oui.
Non, les je peux t'assurer.
C'est comme les avoir... comptes d'Arena Calibé, il faut que tout le monde soit d'accord.
Exactement.
Avec le sujet pour
tout
que
tout le monde
soit
d'accord avec le sujet et qu'on trouve, etc. Et c'est pour ça que ça sort souvent dans la presse lorsqu'il y a un joueur qui arrive et on n'est pas content parce qu'il y en a toujours un. Regardez les entraîneurs l'année dernière au Bayern, la liste des entraîneurs.
Ah ouais, mais c'est délire.
Qu'est-ce qui se passait? En fait, il n'y avait pas un seul décideur du Bayern qui était d'accord pour le coach qui devait arriver. Bah, les mecs en face, au bout d'un moment, quand tu commences comme t'as même pas signé, tu commences à te faire allumer par Lyonnais, ou alors t'as le joueur qui est pas d'accord, ou alors t'as l'ancien qui est un ancien du Bayern qui fait passer des messages en disant bah non, nous on le veut pas parce que c'est compliqué. Maintenant, encore une fois, quand tu vois le palmarès du Bayern, t'as le droit de comprendre ce que ça veut dire la famille au sein du club bavarois. Mais dans le cas présent, je pense que, et c'est pour ça que la presse allemande l'année dernière, en fin de saison, était très critique envers la politique du Bayern. On se demande si c'est pas une forme de fin de règne de ce modèle de gestion du Bayern Munich, qui est encore un club très familial dans un football globalisé, disons-le. Hein, et le Bayern Munich est aussi très globalisé dans ses choix, depuis que Guardiola a été entraîneur là-bas, parce qu'il n'est pas arrivé tout seul, Guardiola. Il y a des sponsors qui débarquent dans tous les sens. Hein, faut se rendre compte de ce que ça veut dire quand Guardiola débarque. Et là, je sens une fin de règne du Bayern qui en plus se fait dépasser par Leverkusen qui avait jamais gagné un titre de Bundesliga, etc. Donc tout ça, c'est un peu compliqué en ce moment.
Je pose, pour conclure ce chapitre allemand, je pose la question à Julien Laurens. Est-ce que tu penses que Kompany a les épaules pour être entraîneur du Bayern ?
Ça, c'est très intéressant, Gilbert. Je sais pas ce que Polo en pense. On a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais c'est un gros pari, déjà, voire même un pari très risqué, surtout, de la part du Bayern. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce qu'il peut faire, dans son côté man management, par exemple, et tout ça, sa relation avec les joueurs. Après, tactiquement, pour moi, il a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place aussi. Donc, c'est un tel pari. Je pense qu'il va faire une saison positive dans l'ensemble. Mais je sais pas s'ils seront champions, et je sais pas surtout dans l'utilisation du ballon, ce qu'on verra avec et sans ballon, pour revenir sur le point de Johan aussi au milieu de terrain, si ce sera aussi bon que le Bayern devrait l'être, entre guillemets. Donc je pense qu'il faudra au moins un an d'adaptation pour voir peut-être une meilleure version de ce Bayern-là sous Kompany la saison prochaine, s'il est encore là. Mais pour moi, c'est un pari super risqué, voire limite trop dangereux, entre guillemets.
Juste 10 secondes sur Kompany.
Vas-y pour conclure.
Il fait beaucoup d'excellentes déclarations avec la presse. C'est 100% nickel ce qu'il dit. Par contre, ce qui me frappe, c'est qu'il parle de la même façon que Thomas Tuchel, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup du physique des joueurs bavarois et un peu moins du football. Et j'aimerais bien qu'il parle un peu moins du physique. Donc on sent l'influence de la Première Ligue quand même, comme Thomas Tuchel l'année dernière en parlait beaucoup, le décalage qu'il peut y avoir avec les joueurs de Bundesliga et la Première Ligue. Et j'aimerais bien qu'il me parle un peu plus tactiquement ce qu'il a envie de faire, etc. Parce que pour l'instant, encore une fois, on fait du neuf avec du vieux.
Dans un instant, oui. Dybala, on va vous raconter ce qui se passe. Il reste à la Roma. Johan fait le point. Ensuite, Manchester United au programme. La Juve qui joue ce soir d'ailleurs. Hein. La Serie A, vous le savez, n'est pas diffusée en France, mais Johan vous tient informé. Je crois que tu avais un match qui vient de se terminer, je crois.
Exactement, Cagliari-Como, un partout.
Très bien, le promu.
Premier Como. Point de Como.
Voilà. A tout de suite, les drôles de dames continuent jusqu'à 22h sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
Il est 20h36, les drôles de l'âme, jusqu'à 22h comme tous les lundis. Ensuite, l'after, Daniel Riolo sera là tout à l'heure, Florent Gautreau sera là pour la Ligue 1 et le Mercato ce soir, notamment dans les drôles de l'âme. Dybala reste à la Roma, mais la situation est loin d'être évidente. Raconte-nous un peu les dessous de ce retournement de situation, Johan.
Ouais, parce que le refus de Dybala d'aller en Arabie Saoudite, tu peux avoir deux lectures. Tu as la lecture romantique, et c'est vrai que c'est super qu'un joueur comme ça... ne prennent pas les 75 millions d'euros qui étaient prévus, et même s'il n'est pas au SMIC, évidemment, à Rome.
On a le droit de ne pas croire à la lecture romantique ?
Non, mais c'est, quelque part, il y a ça. Il va t'expliquer qu'il se sent bien à la Roma, qu'il a consulté sa famille, ses amis, que pour la sélection, c'était aussi mieux de rester dans un championnat compétitif. Que, il n'est pas encore si vieux que ça, qu'il veut encore s'imposer, gagner avec la Roma, tout ça, et tu peux l'entendre sans problème, et au-delà même de même d'ironie qu'on pourrait avoir, et je comprends ça. Moi, je pense qu'un joueur comme ça, qui aime autant le football, pour le coup, lui, vraiment, est un passionné de foot, et je le vois mal vraiment aller là-bas, s'enterrer, et même si tu prends l'argent, je le vois pas du tout heureux dans ce type de championnat-là. Mais peut-être qu'il ira dans un an, dans six mois, on verra. L'autre lecture, c'est de te dire, il reste à la Roma, qu'est-ce que ça a comme conséquence à la Roma? En fait, quand tu as un joueur comme Dybala qui est aussi anarchique sur le terrain, dans une époque où, même si les entraîneurs aiment dire qu'il n'y a plus de système, mais tout était cadré, très clairement, et où tous les joueurs savent en permanence ce qu'ils doivent faire, ils sont mis en condition, les conditions sont répétées à l'entraînement, les schémas sont intégrés réellement, avoir un joueur qui ne rentre dans aucun schéma, c'est un petit peu délicat. Et tout ce que va t'apporter Dybala, tu pourras toujours répondre, il t'apporte plein de trucs, il t'apporte des buts, il a été décisif, il a été important, il marque des buts superbes en plus, donc il y a un côté en plus esthétique très fort chez Dybala. Mais tout ce qu'il t'apporte de bien, tu te dis aussi, mais avec un autre type de joueur qui est peut-être moins fort que lui, qui va peut-être moins te mettre de buts incroyables sur le long terme, ou de buts ultra décisifs à des moments décisifs, est-ce que ce type de joueur-là pourrait t'apporter autre chose à la place d'un Dybala? Finalement, ce qu'il te donne, quelque part, il te l'enlève aussi à ton équipe. Et c'est en ça que certains supporters de la Roma, la grande majorité, étaient très contents qu'il reste. Mais il y en a d'autres aussi qui se posaient la question de peut-être que c'était le moment de tourner la page Dybala. Parce qu'en plus, en janvier dernier, tu as pris Baldan, qui est un numéro 10, que De Rossi est en train d'essayer de transformer en numéro 8, parce qu'il n'a pas la place pour jouer au numéro 10. Ils ont pris Soulé, milieu de terrain offensif, attaquant argentin, qui aime jouer dans une position axiale, même si globalement il joue plutôt sur le côté droit, comme Dybala d'ailleurs a plusieurs fois joué dans sa carrière sur le côté droit. Finalement, on se retrouve avec trois joueurs, même gabarit, même zone d'influence, même style de jeu, même goût pour l'esthétisme, même qualité de je rentre sur mon pied gauche et je frappe enroulé au deuxième poteau. Et tu te dis, ça fait un peu trop. D'autant plus que aujourd'hui, et on l'a vu encore contre Empoli ce week-end, défaite 2-1 à domicile contre Empoli, qui est vraiment une des pires équipes de Serie A en termes de qualité d'effectif. On verra pour le reste dans la saison. L'effectif, il est mal construit pour le moment. Il reste encore quelques jours de mercato. Espérons qu'il se réveille un peu et qu'il le construise un peu mieux que ça, parce que la Roma aujourd'hui est dans une, non pas une volonté, mais une obligation de jouer la Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps qu'il ne la joue plus, et même financièrement, ça devient vraiment un plus qu'un objectif, une obligation. Ouais. Est-ce que aujourd'hui c'est raisonnable quand tu as la Juve qui fait une vraie révolution avec plein de joueurs importants, on y reviendra tout à l'heure, l'Inter qui est au-dessus de tout le monde, le Milan qui entame la deuxième phase de son projet, le Napoli qui a pris Antonio Conte et qui reste malgré tout ambitieux, avec la Lazio qui est jamais simple à jouer, avec l'Atalanta qui est aujourd'hui devenue une vraie réalité pour les places importantes au classement, est-ce que tu te dis que jouer avec arrière-droit Çelik ou Abdoulhamid, le Saoudien qui vient de signer, et à gauche, Angelinho ou le jeune Suédois Dahl, est-ce que d'avoir des latéraux comme ça, c'est le très haut niveau italien? J'en suis pas persuadé. Est-ce que d'avoir Cristante et Paredes en même temps sur le terrain,
ça se joue pas que sur les latéraux?
Non, mais justement, il n'y a pas que les latéraux.
Ça m'avait échappé. Donc c'est un Saoudien qui a signé à Rome.
Exactement.
Donc Dybala, il refuse l'Arabie Saoudite 75 millions et eux, il faut venir à Saoudien.
Un Saoudien, 2,5 millions qui joue à Al-Hilal.
C'est la Roma, c'est la contre-Arabie Saoudite, là, c'est fort.
C'est le latéral droit de l'Arabie Saoudite, qui avait fait le mondial au Qatar. Mais surtout, quand on a déjà des latéraux qui sont, pour moi, très loin des latéraux des autres équipes qui visent la Ligue des Champions. Quand tu as Paredes et Cristante, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 2000. Ce milieu de terrain-là, dans les années 2000, j'achète tous les jours. Là, le football, ça va vite, il faut être dynamique, en mouvement, répéter les efforts, courir derrière le ballon, courir avec le ballon. Les deux n'en sont plus capables. Là, vous prenez le match contre Empoli, ça va à 2 à l'heure, les mecs font 10 touches de balle avant de lâcher le ballon, ils ne courent plus.
Parce que la Roma a perdu, il faut le rappeler.
Ils courent mal, ils ont perdu 2-1 exactement contre Empoli à domicile. Donc tu as aussi ce problème-là, ils jouent, ils n'ont que deux défenseurs centraux aujourd'hui. Ils ont Mancini et Ndicka. Le troisième, c'est Smalling qu'ils essayent de mettre dehors. On est à 5 jours de la fin du mercato, tu n'as pas un seul milieu de terrain dynamique, puissant, qui amène de la vitesse et du dynamisme. Tu as deux défenseurs centraux. T'as pas d'attaquant remplaçant parce que tu essayes de vendre Tammy Abraham. Ça commence à faire beaucoup. Donc au-delà de la belle histoire d'Ibala, des supporters qui allaient devant la maison de Dybala, qui faisaient des chants même pour sa femme, qui a été un gros motif pour qu'il reste à la Roma, tout ça c'est génial, ça fait la une, ça fait le buzz, ça fait tout ce que vous voulez. Derrière, il y a des vraies interrogations. Et moi, les deux matchs que j'ai vus contre Cagliari et Empoli, qui sont quand même deux équipes qui vont clairement lutter pour le maintien, enfin en tout cas pour se maintenir cette saison, les matchs que je vois de la Roma, sincèrement, on est très très loin de ce qu'on a vu en fin de saison dernière avec l'arrivée et l'enthousiasme autour de De Rossi. On est beaucoup plus proche du niveau de jeu exécrable sous Mourinho.
Vous avez des exemples de joueurs dans vos championnats respectifs qui ont refusé un pont d'or de l'Arabie Saoudite ?
Bah, Vinicius. Vinicius a refusé il y a 3 semaines. 1 milliard. C'est-à-dire que il y avait un contrat de 5 ans. Donc à 200 millions par an. Donc ça fait 1 milliard. Le Real Madrid, on parlait de plusieurs centaines de millions.
Le Real Madrid a dit quoi ? On s'aligne.
Non, le Real Madrid a dit, il y a une clause, c'est 1 milliard. La clause, alors, il y avait le salaire proposé sur 5 ans, et tu as la clause au Real Madrid des grands joueurs, c'est 1 milliard. Donc voilà, la question a... Ils en ont discuté 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que Vinicius, là aussi, il adore le foot. Il y finira, hein. Parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite, il est très jeune, Vinicius. L'Arabie Saoudite a aussi son projet mondial 2034. Donc ils veulent construire des choses. Vous vous souvenez avec le Qatar quand ils ont fait venir Xavi Hernandez par exemple, c'était aussi par rapport au mondial du Qatar. Donc il y a eu cette offre. Alors ça a duré quelques heures, mais elle a vraiment existé. Mais le Real a pas voulu négocier.
Osimhen refuse clairement l'Arabie Saoudite pour le moment.
En Allemagne, en Angleterre, vous en avez ?
Bruno Fernandez, Lukaku, qui appartient encore à Chelsea, mais qui est un peu chez Johan, un peu chez moi. Lukaku aussi, mais Bruno Fernandez qui a prolongé à Manchester United cet été-là. Il a eu aussi un pont d'or de l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de joueurs.
Salah aussi, non ? Il n'y a pas eu Salah ?
Salah, oui.
Salah aussi, ouais, bien sûr. Mais Salah, ça reste, on se dit toujours qu'à la fin de son contrat, qui est l'été prochain, il pourrait très bien partir pour finir sa carrière là-bas. Et ça a un petit peu de sens, de par la religion, de par, etc., hein, la culture et tout ça. Mais ouais, c'est vrai que régulièrement, les gros noms anglais, Kevin De Bruyne, par exemple, hein, Kevin De Bruyne, ils lui font un pont d'or maintenant. Et lui aussi, je pense que si Pep Guardiola s'en va l'été prochain et que lui aussi sent que c'est la fin de ce cycle-là, qu'il pourrait facilement partir. D'ailleurs, il a déjà dit, hein, moi, j'aurais aucun problème à aller en Arabie Saoudite. Ça se fera pas là, mais ça pourra très bien se faire l'été prochain, sans doute, sans aucun doute. Ouais.
Sur la vie en Arabie Saoudite, en fait, je trouve que j'ai quelques contacts là-bas. Contrairement à ce qu'on peut croire, on a tous des images aussi de ce pays. C'est un pays qui est en train de s'ouvrir de manière absolument incroyable. Hein. Mm-hmm. C'est un pays qui s'ouvre au tourisme. Avant, pour avoir un visa, c'était impossible. Aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes. Enfin, j'exagère à peine, mais en quelques heures, tu as un visa touristique pour l'Arabie Saoudite. Pour les gamins, il y a des écoles super, des grandes écoles internationales. Le système de santé, il y a un système d'hôpitaux de très haut niveau. Pour les gamins, des écoles en anglais, avec des cours d'arabe. Enfin, je veux dire, c'est, faut pas croire que pour une famille, c'est s'enterrer là-bas. Je pense d'un point de vue.
Après, Aymeric Laporte n'était pas d'accord avec toi, Fredo. Oui. Laporte a fait une interview dans Marca pour dire que
ce week-end. Voilà, j'ai échangé avec lui ce week-end. Parce que Laporte.
Oui, donc c'est pas pour tout le monde non plus.
Oui, non, mais Laporte, il a très envie de revenir en Espagne. Mais je veux dire simplement la question.
Apparemment, Jeddah, c'est plus accueillant que Riyad, par exemple.
Mais bien sûr. Bien sûr.
Je sais pas où était Laporte, parce que je t'avoue que je suis un grand spécialiste des clubs saoudiens.
Non, mais la capitale, enfin, Riyad,
ça lui plaît pas
compliqué.
Du tout.
Mais Jeddah, c'est une ville très dynamique, etc. Non, mais c'est un pic. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite d'il y a 10, 15 ans, ce n'est pas l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, et ce n'est pas l'Arabie Saoudite dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Il y a une véritable ouverture. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'après.
Il y a Riyad à Al Nasser.
Il est
Riyad.
Riyad, bah oui,
bah du coup, il n'y a pas la mer.
C'est plus compliqué. Mais il y a quand même, pour les familles, par exemple, c'est pas horrible d'aller vivre en Arabie Saoudite. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça pouvait être très compliqué.
Quand tu es très riche et que tu gagnes des millions partout dans le monde, c'est pas trop compliqué de vivre.
Il y a plein de choses. C'est-à-dire, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Donc,
moi, pour avoir échangé aussi avec des membres de staff technique qui allaient en Arabie Saoudite et pas que dans les top clubs, niveau familial, c'était moyen aussi. Hein.
Mais ça évolue. Mmh. Ça évolue. C'est-à-dire que.
Polo, en Allemagne, t'as un exemple, toi, d'un joueur qui a refusé un pont d'or saoudien ?
C'est fort possible, mais je les ai oubliés parce que ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, si
t'en as pas un qui restait à coup de mousse.
C'est non, mais c'est si, mais j'en ai eu, non, mais le y a, comment ça s'appelle, moi, ce qui.
Tony Kroos, me dit Jimmy Brown.
Ouais, mais enfin, il était en Espagne. Il n'était pas en Bundesliga. Et si tu veux, en fait, entre ce qui est officiel et les joueurs qui sont sondés pour voir s'ils veulent venir, etc., on apprend souvent quelques mois après qu'il y a eu ça pendant un moment. Alors, souvent, certains joueurs, d'ailleurs, se font mousser comme ça parce qu'ils pensent en faisant croire qu'il y a des offres, etc. Mais pour être honnête, non, j'ai pas de grands départs comme ça qui me viennent à l'esprit. Mais je suis intimement persuadé qu'un Harry Kane, au minimum, dans l'entourage d'un Harry Kane, on se pose la question de savoir si on peut pas le recruter, quoi. Donc
une remarque de Dark Gayu qui dit, pour les ultra riches, tu veux dire Fred? Oui, je parle pour un footballeur qui a de l'argent en Arabie Saoudite.
Oui,
ça se passe très bien. Je parle, mais
oui, un peu comme dans tout le monde, dans le pays du monde, avec tous les riches.
Bien sûr, c'est ce que je disais. Oui, tu parlais pas des travailleurs philippins là.
Je parle bien entendu. Non, mais c'est bien de le préciser. Et Dark Gayu sur le site de l'AFP.
Allez, on enchaîne.
A raison de le dire.
La minute de Julien Lens. Quelles sont les explications?
Ah, Disco 2000 déjà, Disco 2000, je pense que tu as reconnu. Gilbert quand même, Pulp. Ah oui,
ouais, Pulp, c'est extraordinaire.
Extraordinaire, la Britpop un petit peu pour toi, mon Polo.
Polo, il valide un truc anglais, c'est...
Ouais, mais cette période-là, il aime bien.
Pulp, c'est quelque chose.
Il aime bien ça. Ouais. Et donc, Disco 2000, parce que des années 2000, c'était les années Sven Goran Eriksson, bien sûr, à la tête de l'équipe d'Angleterre, 2001-2006. Sven Goran Eriksson qui nous a quittés aujourd'hui à 76 ans. Il était malade, on le savait, on en avait déjà parlé dans l'after. Il avait eu ce match de charité qu'il avait entraîné, où il avait entraîné Liverpool à Anfield, en réalisant son rêve d'entraîner un jour le club qu'il supportait étant petit. Et voilà, donc on voulait saluer un petit peu sa carrière, déjà l'homme qu'il était, la carrière. Alors il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, même avec l'Angleterre, il y a eu des très très bonnes choses. Les Anglais, mon Polo, parlent encore, bien sûr, comme tu le sais, les rois des matchs amicaux, de cette victoire 5-1 contre tes Allemands en 2001. Bien sûr, il avait battu l'Espagne de Fred pour son premier match, 3-0 à Wembley aussi. Donc ces matchs-là, les matchs amicaux qui servaient à rien, il avait été très bon. En compétition, ça avait été un peu plus compliqué, mais si on regarde avec un peu plus en détail, cette génération dorée, bien sûr, des Lampard, des Gerrard, etc., qu'il n'avait jamais réussi à faire jouer complètement, à trouver cette osmose-là, une alchimie et des repères entre tout le monde. Elle perd en 2002 contre les Brésiliens qui ensuite vont gagner en quart de finale. Elle perd en 2004 au tir au but contre le Portugal à domicile, donc chez les Portugais. En 2006, bon, c'est un petit peu compliqué aussi, mais voilà, c'était Sven Goran Eriksson avec aussi toutes les controverses, les polémiques dans les tabloïds, ses infidélités, tout ce qui a pu lui arriver à ce niveau-là chez les Anglais. Donc voilà, Sven Goran Eriksson, on aurait pu parler d'Haaland qui a encore marqué contre un nouveau club en première ligue. Je voulais parler aussi du Pass Ligue 1 maintenant en Angleterre. Pour tous les Britanniques qui nous écoutent, tous ceux qui habitent en Angleterre et en Irlande, ils peuvent regarder la Ligue 1 sur le Pass Ligue 1 de la Ligue. C'est très très bien. Mais voilà, Sven Goran Eriksson, c'est l'information la plus importante de la journée. Et puis voilà, on voulait saluer sa carrière chez moi, mais aussi chez les autres, parce qu'il a connu beaucoup de championnats, beaucoup de clubs.
Bah, si tu me permets, des hommages très appuyés, très touchants de Carlo Ancelotti, de Simeone, qui ont travaillé avec lui. Donc, mais vraiment. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça. Il a
Simeone a même été son joueur à la Lazio.
Et il avait mis un très beau message en disant merci pour tout, Mister. Enfin voilà, c'était
la grande Lazio des années 2000 qui gagne tout, une coupe des coupes, qui gagne le Scudetto, des coupes d'Italie, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Italie. C'est la Lazio de Sven Goran Eriksson avec les Nesta, les Simeone, les Verón, les Nedved, les Inzaghi, les Salas, les Vieri. Et qu'on sort, donc c'était. Il a coaché aussi la Roma. C'est quand même un des rares qui a coaché et la Roma et la Lazio, la Fiorentina, la Samp.
La Roma avec Ancelotti, c'est
bien
la Roma.
Sûr. Ouais, bien
c'est Ancelotti, les joueurs de la Roma.
C'est la suite d'un autre Suédois qui était Lidholm, Nils Lidholm. Donc en Italie, on l'a beaucoup connu. Et d'ailleurs, il y aura une minute de silence sur tous les terrains italiens de Serie A et Serie B ce week-end.
Il y a un match de Ligue 2 en direct ce soir. C'est Red Star Ajaccio. Ça vient de commencer. Il y a déjà un but. Clément Brossard, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous, bienvenue à Bauer. 26 ans après, Bauer retrouve la Ligue 2 dans un calme plat, grève des supporters, pas de tambour, pas de chant, mais pourtant on s'est quand même levé pour fêter l'ouverture du score. Après 3 minutes seulement, c'est le milieu de terrain Samuel Reiner, présent au second poteau, qui est venu battre une première fois François-Joseph Solacaro, le gardien ajaxien. 1-0 déjà pour le Red Star dans un climat assez particulier.
Oui, on en reparlera tout à l'heure avec les contestations toujours envers le diffuseur et les lasers verts vers les caméras.
Sinon, Pulp, je crois qu'il y a une chanson, excuse-moi Gilbert, qui s'appelait Hardcore dans cet album de Disco 2000 qui est assez extraordinaire. Mais ça, c'est des souvenirs d'enfance. Hein, enfin,
Different Class, c'est l'album d'ailleurs, hein, mon Polo. 1994 ou 95, je crois, j'ai regardé pour toi tout à l'heure.
Et c'est This is Hardcore qui est assez exceptionnel comme chanson.
Dans un instant, la première ligue avec la première défaite de Manchester United. On va en parler dans quelques secondes. Et puis ensuite, la révolution à la Juve au programme. Lewandowski également au Barça. Chelsea, le frérot qui gagne largement. Voilà le programme des drôles de dames jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
Il est 20h54, Fred Hermel est là, Johan Crochet est là, Paulo Breitner est là, Julien Laurencé est là, les drôles de dames comme tous les lundis, votre rendez-vous foot européen qui continue cette année, cette saison comme depuis le début de l'after qui entame d'ailleurs sa 19e année en 2024.
Ah, on va préparer les 20 ans déjà.
Ouais, ah, attendez, on a déjà fêté notre majorité il y a quelques mois.
Donc, il n'y a pas eu de fête? En tout cas, alors je ne vais pas être invité. Mais...
qu'est-ce qu'on a fait?
Non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas eu de fête. Tu étais invité à la fête de 18 ans, non?
Non. On a, non, on a
fait... Moi, j'étais là.
On a fait une mission spéciale. Quel footeur de merde. Non, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais Jimmy, on a fait un spectacle, l'after sur scène, t'es pas venu.
Ah, ben non, j'étais là. À Paris, donc.
J'étais là. Voilà. Voilà.
Non, mais attends, excuse-moi. Un anniversaire, ça se fête avec de la bouffe. Et de la boisson avec modération.
Il y avait de la bouffe et il y avait de la boisson.
Hein, il y avait un buffet.
Ah bon, on est bien heureux.
Oui, après le spectacle. Extraordinaire. Allez, on y va. Tu voulais parler de Manchester United ce soir particulièrement, Julien?
Ouais, parce qu'ils ont perdu, tu l'as dit, hein, première défaite de la saison à Brighton ce week-end, samedi. Un match qui a été très intéressant, j'ai trouvé à suivre, parce qu'il y avait vraiment des bonnes choses de la part de United et d'Erling Ten Hag. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de Ten Hag depuis son arrivée au club, c'est sa troisième saison, mais dans le pressing notamment et le jeu sans ballon, j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes où ils ont été courageux, quasiment en faisant un marquage individuel dans les joueurs qui voulaient presser. J'ai trouvé ça très bien organisé. J'ai trouvé que c'était les bons déclencheurs. J'ai trouvé que c'était bien en place. C'était vraiment intéressant contre une équipe de Brighton qui joue beaucoup. Hein, Fabian Urzeler, qui est le copain de Polo, ça joue beaucoup. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien de la part de United. Mais là où j'ai des soucis, donc il y a des défaites, ils prennent un but à la 95e minute sur une défense de poussin. C'était une défense de gamin de 8 ans, de 9 ans, la façon dont on joue au Pedro est tout seul. Enfin, il est même pas tout seul, ils sont trois de joueurs de Brighton tout seul au deuxième poteau. Il a eu une tête super facile à mettre sur le centre d'Adingra. C'est incroyable de voir une équipe pareille, alors dans ce championnat-là déjà, mais encore une équipe comme Manchester United avec à ce niveau-là, des joueurs qu'ils ont sur le terrain, sur le banc, l'entraîneur qu'ils ont, de concéder des buts pareils. Le premier avait été catastrophique défensivement, le but de Welbeck. Alors le deuxième, c'est encore pire. Et en fait, à chaque fois qu'ils font des bonnes choses, et on l'avait déjà dit après le match de Fulham lors de la première journée, c'était un peu le cas la saison dernière, et puis encore plus le cas la première saison, à chaque fois qu'ils font une bonne chose, t'as l'impression que il y a une contrebalance, en fait, un contre-équilibre de choses qu'ils font, mais ils font n'importe quoi. Je sais vraiment pas comment ils peuvent encaisser un but pareil à la 95e minute à l'extérieur quand, même s'ils auraient même pu mériter de mener, parce que je parlerai du but de gag refusé à Garnacho dans une minute. Mais au moins, prends le match nul, prends le point du match nul, fais pas n'importe quoi. Et là, défensivement, ils sont à la rue totale. Et je sais pas comment des De Ligt, des Lisandro Martinez, des Onana, des joueurs pareils, peuvent être autant attentistes, aussi perdus défensivement sur une phase arrêtée. C'est un corner, c'est une deuxième phase sur corner où ils sont complètement perdus, complètement à la rue. Je sais pas si c'est la faute de l'entraîneur, du staff pour pas travailler assez là-dessus, si c'est les joueurs eux-mêmes, si c'est un manque de lucidité parce que physiquement, c'est un peu compliqué. Enfin, de match, je sais vraiment pas, mais c'est un but qui est inacceptable à ce niveau-là pour une équipe comme, enfin pour n'importe quelle équipe à n'importe quel niveau, et de perdre de cette façon-là, c'est vraiment dommage parce que j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes dans le contenu avec ballon, et je l'ai dit surtout sans ballon dans le pressing. Le but de Garnacho, centre de Bruno Fernandes devant le but, Zorgi est dans la surface, Garnacho aussi, le ballon va au deuxième poteau pour Garnacho qui frappe, qui marque, mais Zorgi s'était jeté en fait au premier poteau pour reprendre le centre initial de Bruno, donc il est encore en train de se jeter, en train de glisser sur la pelouse, le ballon de Garnacho lui touche le genou, rentre, Zorgi est en position d'orgue parce qu'il est devant Garnacho, le but est refusé, et c'est surtout comme ça que Manchester aussi perd. Donc voilà, c'était pas la bonne après-midi pour Ten Hag et United.
J'ai une question pour Julien. T'imagines bien, mon cher Julien, que je vais m'intéresser en priorité à Brighton cette saison. Comment est vécu le début de Brighton sous Hürtzler? Donc, enfin, Hürtzler, je lui en veux à mort d'avoir quitté Sampaoli, évidemment. Mais parce que, enfin, c'est un mec, c'est un prodige, quoi. On n'a pas vu ça depuis Nagelsmann, ouais. Hein. Le mec, c'est fou ce qu'il a réussi pour, ouais, c'est fou ce qu'il a réussi avec Sampaoli, le fait de monter de sa façon et tout ça. Quasiment invaincu à Sampaoli. Enfin, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Et là, il débarque à Brighton. Bon, il fait un recrutement, évidemment, Gruda, tout le monde l'avait repéré en Allemagne, mais c'est très bien, c'est la première ligue qu'il a récupérée. Comment il s'est vécu, ça, en Allemagne, le coach allemand?
Alors, beaucoup de surprises, déjà. Quand il est arrivé, mon polo, beaucoup de surprises. Hein, beaucoup il y avait beaucoup de sceptiques aussi dans le fait que quelqu'un d'aussi jeune, et tu sais, comme les Anglais ne regardent pas les autres championnats, à part le leur, donc complètement inconnu, à part les mecs un peu branchés qui regardaient la Bundesliga, etc., etc. Donc les Anglais, on dit, c'est qui l'attitude habituelle qu'ils ont dans ce genre de contexte-là, de situation-là. Et puis tout de suite, il a très bien parlé déjà, il parle très bien anglais, mais il a une belle assurance quand il parle, je trouve, déjà, voire un peu même d'arrogance par rapport à ce qu'il est capable d'accomplir à 31 ans dans un championnat pareil. Par exemple, on lui a dit, mais vous êtes quand même plus vieux qu'un James Milner, qu'un Lewis Dunk dans votre équipe, qui est votre capitaine. Comment vous gérez ça? Bah, pas de problème. Ils sentent très bien où est l'autorité, où est le respect, etc. Bah, vraiment, il s'en est très bien sorti pour ce qui était une question un petit peu piège, mais qu'on a dû lui poser plein de fois déjà en Allemagne avant. Et puis, tactiquement, même si l'équipe était bien en place, après De Zerbi, notamment dans la construction du jeu, les sorties de balles, etc. C'était une équipe de Brighton qui avait quand même un peu galéré la saison dernière, qui avait eu du mal à vivre la Première Ligue et les Coupes Européennes et tout ça. Et là, t'as senti le vent de fraîcheur. Alors, ils sont au top physiquement, déjà. Ils ont très bien commencé. T'as raison, Gruda, Minté. Il y a vraiment des très belles recrues dans cette équipe-là. Ils ont encore une fois, mais de toute façon, c'est ce que ce club-là fait, hein. On parlait tout à l'heure de Juni Khalifa, des recrutements au Bayern, au Real. Brighton, c'est largement en dessous en termes de budget, d'argent, etc. Mais ils font un tel travail. Ils sont tellement intelligents dans ce qu'ils peuvent faire en termes de recrutement. C'est vraiment très beau à voir. Et pour l'instant, tout fonctionne pour lui. Alors, il y a un moment où ce sera plus compliqué. Forcément, il y aura des périodes plus difficiles. Mais là, pour l'instant, tout le monde est un peu sous le charme. Hein. Ouais.
Dans un instant, on est de retour pour parler également de la minute de Fred, qui arrive dans quelques secondes. Oui, on va la décaler un peu. Et puis la Juve, Chelsea, Lewandowski. On est un peu à la bourre, et comme il faut être à l'heure à la radio, l'heure c'est l'heure. Il est 21h. À tout de suite.
Génération After.
RMC. Je ne donne pas de notes. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire boire, les gars.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce
on se calmer.
Non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Il y a une phrase célèbre dans le foot.
Un frisson, c'est mon calame. Allez, c'est. Ouh, tu vois, c'est. C'est la différence entre les gens qui pratiquent et ceux qui regardent sur Google Crad. Google Crad.
20h-22h, Génération After.
Gilbert Bribois.
Il est 21h04, Génération After jusqu'à 22h avec ses drôles de lames comme tous les lundis. Ensuite, l'After de 22h à minuit. La Ligue 2, Red Star Ajaccio. Où en est-on, Clément?
Ça fait 1-0 toujours pour les joueurs du Red Star suite à ce but de Reynel à la 3ème minute. Et puis je vous informe aussi que le dispositif beIN Sport, le diffuseur, a été allégé. On est passé de 12 à 2 caméras centrales. Il n'y a pas de commentaires au stade non plus, de commentateurs pardon, il n'y a pas de car régie. Et bien les deux caméras centrales depuis le début de cette rencontre, elles sont visées par de larges lasers verts qui tentent d'empêcher la diffusion. Et il n'y a toujours pas de champ ici à Bauer, 26 ans après le retour de Bauer en Ligue 2. Mais pour l'instant ça se passe bien sportivement, 1-0 pour le Red Star.
La Juve joue en ce moment à Vérone, 0-0 après 11 minutes. On va en parler tout de suite, Johan, parce que c'est la révolution. Est-ce que ça a marché? Bon, ça on verra.
Mais en tout cas, c'est assez prometteur. En tout cas, ça déclenche quand même une vague d'enthousiasme assez importante à Turin, parce que bon, on peut même écarter le premier match, même s'il a été intéressant à partir de la 20e minute, où ils se sont vraiment installés et qu'ils ont... commencer à mettre en place les points à travailler avec Thiago Motta, un jeu beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus moderne évidemment, mais ça surprendra personne, en tout cas pas ceux qui ont vu jouer Bologne l'année dernière et surtout ceux qui ont vu jouer la Juve et d'Allegri aussi en même temps. Ce match-là, évidemment que ça a fait plaisir à tout le monde, parce qu'il y a des supporters qui étaient vraiment en attente de ça. Ça fait des années qu'ils attendent d'avoir une Juve, non pas simplement qui gagne, mais une Juve est dominatrice, qui propose du jeu, qui te donne des émotions positives. Et c'est vrai que sur le premier match, ils en ont eu des premières. Alors, c'est que la vérité d'un match et on attendra de voir un petit peu plus sur le reste de la saison. Mais en tout cas, c'était prometteur. C'est surtout le mercato et comment il a été géré qui a vraiment impacté les supporters de la Juve. Parce que je trouve un recrutement évidemment ambitieux avec les Nico Gonzalez, avec les Douglas Luiz, avec Pierre Kaloulou, Kefren Thuram, Francisco Conceição, un nouveau gardien, Di Gregorio qui vient de Monza, possiblement d'ici la fin du mercato, Koopmeiners et Sancho. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs intéressants. Et puis quand vous regardez un peu le pédigré de ces joueurs-là, il y a un langage commun, c'est le langage du ballon, et c'est toujours mieux d'avoir des joueurs qui sont pas fâchés avec la balle et qui en plus le travaillent à l'entraînement et qui sont pas simplement là à écouter des inepties sur défendre dans ses 30 mètres. Donc l'effectif est très bien construit, en plus en ayant perdu Rabiot, ok, ils ont perdu Rabiot qui était en fin de contrat et c'était un joueur majeur de la Juve d'Allegri. Ils ont perdu Chesney aussi dans les buts, mais ça c'était un vrai choix. Et sinon ils ont financé ce mercato là qui est vraiment très imposant et avec des joueurs d'un vrai pédigré footballistique par la vente des petits joyaux de la Next Gen, cette équipe U23 qui joue en 3e division, des jeunes qui progressent beaucoup, les Mathias Soulé, on en a parlé côté Roma, Barinecia, Ealing Junior du côté d'Aston Villa et que Ealing Junior qui va être de retour en Serie A en prêt à la Fiorentina, avec qu'est-ce que j'ai oublié, Huizen aussi qui est parti chez Julien Laurence, à peu près comme tous les bons joueurs de Serie A. Et Thiago Motta est assez content, enfin particulièrement content de ce mercato parce qu'il a le sentiment d'être écouté par Giuntoli. De toute façon, le voulait déjà à Naples. Il y avait eu une tentative de Naples quand Giuntoli était directeur sportif à Naples pour prendre Thiago Motta. Ils se sont retrouvés à la Juve. Et il estime, Thiago Motta, il l'a expliqué en conférence de presse avant le match de ce soir contre Vérone. Il avait dit, je me sens chanceux. J'ai des joueurs avec des caractéristiques différentes et fonctionnelles pour notre système. C'est ça, parce que quand vous prenez aujourd'hui l'effectif de la Juve, vous avez un peu tout. Vous avez des joueurs pour le jeu de position classique, donc très doué techniquement pour faire tourner le ballon, gérer le rythme, le tempo des rencontres, je cours, je lombe. Vous avez des joueurs aussi dynamiques, des milieux de terrain comme Kefren Thuram qui amène un petit peu plus de jeu sans ballon au milieu de terrain et de capacité à se projeter. Vous avez des ailiers, le premier c'est Nico Gonzalez, peut-être que Sancho va arriver, il y a aussi Conceição qui est arrivé, donc des ailiers de débordement, des 1 contre 1, des ailiers qui rentrent aussi intérieur, qui peuvent jouer pour certains des deux côtés, donc ça aussi c'est des autres options en fonction de l'adversaire et de ce que tu veux mettre en place. Vous avez des défenseurs qui sont bons avec ballon, des défenseurs, même si je pense qu'un défenseur qui sera encore meilleur avec ballon, ça serait pas de trop, mais je pense pas que ça viendra sur ce mercato-là, mais des défenseurs qui sont durs sur l'homme, sur de l'individuel, comme Bremer, un Kaloulou qui peut jouer arrière-droit, défenseur central. Donc vous avez tout un mix de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions, ça permet de faire plusieurs systèmes différents, des configurations selon l'adversaire, sur les forces en présence, pour pallier aux absences. Donc vraiment, l'effectif, il est, je trouve, super bien construit en ayant réellement assez peu dépensé. Parce que, évidemment, on a l'habitude, ou le grand public a l'habitude de faire la liste des dépenses en disant, ils ont acheté 50, plus 30, plus 20, plus 15, plus 7. Sauf que ça n'a pas trop de sens de faire ça. Parce que comment est calculé dans les budgets des clubs le recrutement? C'est l'amortissement du montant de transfert et le salaire fois le nombre d'années de contrat. Donc quand tu regardes le départ de Chesney, gros salaire, le départ de Rabiot, gros salaire, le départ de Moïse Kean, gros salaire plus indemnité de transfert, les jeunes qui ont rapporté de l'argent et qui avaient aussi un salaire, des gens comme Rougani qui avait un salaire conséquent et qui ne servait à rien, De Chilio qui va peut-être partir à Empoli et ça va libérer une partie du salaire, ben finalement la Juve n'a pas tant dépensé que ça quand vous prenez bilan comptable vraiment sur l'exercice en cours. Et c'est très intéressant. Et sincèrement, moi, évidemment que je fais un peu partie de ceux qui expliquent, notamment en Italie, que seul l'Inter peut perdre le titre. C'est-à-dire qu'ils sont les favoris ultimes et presque sans débat. Par contre, s'il y en a une équipe qui peut vraiment embêter l'Inter, pour moi, ce sera la Juve. Parce que même s'ils sont dans un processus d'un nouveau cycle, comme dit John Elkann, le grand patron de la Juve et de toutes les activités Agnelli, ils sont en train de construire quelque chose de très fort avec un entraîneur qui a des idées et surtout il y a une espèce de collégialité entre l'entraîneur, le staff, les dirigeants et le sommet de la Juve qui laisse à penser que la Juve est vraiment sur le bon chemin.
Alors il y a un feuilleton Chiesa évidemment depuis que l'on sait que Thiago Motta n'en veut pas contre toute attente. Enfin, moi je comprends pas, mais bon, on a déjà parlé.
En fait, c'est pas une question technique, mais... il y a aussi une question contractuelle. Donc il faut pas le lire simplement sur question technique, même si on peut entendre que Chiesa a pas toutes les qualités que Motta voudrait sur les postes d'ailier, mais il y a aussi un joueur qui est en fin de contrat, qui a pas envie de prolonger. Et d'ailleurs, McKennie était dans le même cas. il voulait pas prolonger. Le jour où il a ouvert la porte à une prolongation, bizarrement, il est revenu dans le groupe, il s'est entraîné et il jouera.
Bah, Chiesa, alors, ça s'est excité du côté de Barcelone en début d'après-midi, puisque Tuttosport a, et d'autres médias italiens parlaient de, d'un accord entre la Juve et le Barça et d'un accord entre Chiesa et le Barça. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte que le Barça ne pouvait pas inscrire Chiesa, donc Chiesa ne voulait pas prendre le risque de venir en Espagne et de ne pas pouvoir être inscrit à cause du fair-play financier de la Liga qui bloquait l'inscription. On parle du Barça tout de suite ou on attend, parce qu'il y a pas mal de trucs, on parlera de
l'inscription dans un instant.
Dans un instant, parce que la bonne nouvelle, ça vient de tomber, Olmo va pouvoir être inscrit. Il y a un petit tour de passe-passe assez intéressant, on en parlera. Voilà, mais en tout cas, Chiesa ne viendra pas au Barça parce qu'il ne peut pas être inscrit.
Moi, je serai le PSG, je m'intéresserai à Chiesa, mais bon.
Bah, moi aussi.
Il y a une personne sur le chat qui expliquait, qui reprenait ce que je disais en disant il y a de tout sauf des stars. Rappelons évidemment que la Juve, hormis Ronaldo, et ça n'a d'ailleurs pas été un grand succès, n'achète pas de stars. La Juve transforme des bons joueurs en stars.
Très bien. C'est une stratégie. Effectivement, tu viens de le rappeler.
Et ça a marché sur pas mal de joueurs.
Beaucoup de joueurs.
Est-ce que Platini était une star avant d'être à la Juve? Non.
En enfin, française.
Est-ce que Zidane était une star
avant d'arriver
à la Juve? Il commençait à être un joueur reconnu en France quand même.
Oui.
Oui, reconnu en France.
Mais c'était pas une méga star.
Mais Zizou a toujours dit qu'il a appris la compétitivité, il a appris le football de niveau à la Juve.
Ouais, mais il y en a plein. Nedved est devenu une star à la Juve et tous.
Bah, les six premiers mois de Platini à la Juve, c'est compliqué. Hein.
Et Boniek est devenu une star avec la Juve.
La minute Herbel, s'il vous plaît. C'est parti.
Entre sus brazos y desperté llorando. No, alegría.
Le problème de Fred, c'est pas les choix de musique, c'est quand il se met à chanter sur les choix de musique.
Non, c'est que ça fait un an et demi que c'est la même.
Alors, détends-toi. Ce week-end, je me suis rendu compte que c'est quoi? C'est la troisième saison que nous mettons de la musique dans ce rendez-vous des drôles de dames le lundi. Et je ne vous avais jamais mis María Dolores Pradera, l'une des grandes chanteuses espagnoles du XXe siècle, qui est aujourd'hui décédée. C'est une chanson qui raconte, c'est un couple qui fait la grasse matinée qui dure toute la journée. Ils sont au lit, ils somnolent, ils se réveillent, ils s'embrassent, ils se rendorment. Je trouve que c'est la chanson parfaite pour parler de ce match qui a marqué l'histoire de la Liga, le match opposant Getafe au Rayo Vallecano.
Pourquoi c'est la purge ultime, c'est ça
que... Non mais là c'est au-delà, c'est-à-dire que des purges, quand il y a rien à faire, en gros c'est purge à chaque match. C'est pas ça, c'est que cela faisait exactement 21 ans, je dis bien 21 ans, que dans un match de Liga de première division, il n'y avait eu aucun tir cadré. Et ben voilà, ça faisait 21 ans.
Je te dis, tu fais attention, tu ressembles de plus en plus à la Ligue 1, toi.
Donc oui, alors Getafe Rayo Vallecano, c'est zéro tir cadré. Donc c'est une purge monumentale. Mais ça va peut-être changer. Pas pour Getafe, mais pour le Rayo Vallecano. Parce que je voulais quand même donner une petite nouvelle. C'est qu'il y a un joueur extraordinaire qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, qui a signé pendant un an au Rayo Vallecano. James Rodriguez, le Colombien.
Ah.
Alors, c'est pas pour Vallecas.
C'est une grosse Copa América.
Ouais, mais James, le problème de James, c'est le travail. Il travaille pas l'entraînement. S'il avait eu un quart du cerf, mais pas un dixième du sérieux de Cristiano Ronaldo, il aurait été l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur extraordinaire. Il adore Madrid. Alors, Rayo Vallecano, il va gagner peu d'argent, hein, parce que c'est un club qui a pas de sous. Mais il va vivre dans une ville où il a très bien vécu, parce qu'il avait vécu, il a joué au Real, qui est Madrid. Et après, il s'installera sûrement à Madrid. Donc, ça fait plaisir pour la Liga et pour un petit club comme le Rayo Vallecano, qui, je vous rappelle, n'est pas un club de la banlieue de Madrid, mais c'est un club d'un quartier de Madrid, parce que Vallecas, c'est un quartier à l'intérieur de Madrid. Et donc, voilà, ça a été une purge quand ils ont joué contre Getafe, mais on espère qu'avec James Rodriguez, il y aura des tirs cadrés, parce que il tire pas mal, notamment de loin quand même. Il a une belle frappe, James Rodriguez.
Dans un instant, le réveil fracassant de Chelsea, entre autres. Et puis, on va également parler de Stuttgart. On parle pas assez peu de Stuttgart. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus la ville où on a forcément envie de passer un petit week-end. Sauf si on veut s'acheter une Mercedes, puisque c'est là-bas que ça se construit. Faut le savoir. Et Polo va nous dire ce que Stuttgart peut espérer en Ligue des Champions d'ici 22h. Allez, à tout de suite avec les drôles de l'âme.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
Il est 21h17, les drôles de l'âme sont là jusqu'à 22h, ensuite ce sera l'after et la Ligue 2. Eh oui, un petit Red Star Ajaccio. Les gars, Clément Brossard est sur place.
Et on est toujours bien à Bauer, une demi-heure de jeu, 1-0 pour le Red Star suite à ce but de Reynel sur un très bon centre de Ben Ali à la 3ème minute. Ça va vite quand même, hein. Le Red Star quand ça a le ballon dans les pieds, notamment avec Reynel et Ben Ali, c'est de là qui font beaucoup de mal à la défense ajaxienne, qui a tout de même essayé de réagir avec une frappe de Valentin Jacob qui à l'issue d'un arrêt solitaire n'a pas trouvé le cadre de Quentin Benardo. Les Ajaxiens qui semblent quand même un peu mieux finir cette première période, mais qui sont toujours dans le dur quand le Red Star se met à attaquer et à prendre les espaces. 1-0 pour le Red Star après 32 minutes de jeu à Bauer.
Lewandowski continue de porter le Barça. Barça qui démarre bien sa saison, mon petit Fredo.
Oui. Oui, parce que bah il y avait quand même deux grosses équipes. Enfin, sur Valence, non, mais enfin, historiquement, Valence-Barça, ça veut toujours dire quelque chose, même si c'est plus le Valence de l'époque. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils s'en sont gagnés à Valence. Bon, c'était régulier ces dernières années, mais le match contre l'Athletic Club de Bilbao, là. Alors un peu décevant, Nico Williams, décevant, qui a failli signer au Barça cet été. Mais le Barça gagne et parce que t'as Lewandowski, parce que c'est-à-dire que le premier match c'est un doublé de Lewandowski. Là, Lewandowski marque le but de la victoire. Vous savez, le football. Alors on est là, on aime bien discuter, on parle beaucoup de choses, de tactique, de milieu de terrain, de défense. Et tout. À un moment, le football c'est très simple. Hein, il faut que le ballon y rentre. Puis c'est tout ça. Tu vois, tu peux dire, eh ben Lewandowski, tu sais que ça va rentrer. Il a frappé deux fois le montant, et puis la troisième fois, bah, c'est le but de la victoire. Donc Lewandowski, où il y avait eu quand même des petites rumeurs un peu cet été, sur un possible départ, etc. Lui avait vraiment insisté, moi je veux rester ici, je veux triompher au Barça, et je pense qu'il va être encore très très utile à cette équipe. Voilà, tu sais, quand t'as un gardien qui arrête et un buteur qui marque les buts, et ben c'est quand t'as Ter Stegen et t'as Lewandowski, ben, t'as des assurances, même quand t'as des petits problèmes au milieu de terrain. Alors,
après je veux que Polo nous parle d'Hansi Flick.
Alors, moi, dont j'ai déjà dit du bien la semaine dernière, je trouve que, pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de la communication. Après, on verra au niveau du jeu, mais il fait jouer des jeunes. Voilà, moi, je trouve bien jusqu'ici. Alors, la question qui est la plus brûlante, c'est l'histoire d'inscription des joueurs, parce que là, c'est vraiment le gros drame du Barça. On l'expliquait. Pourquoi Nico Williams n'est pas venu cet été? Tout simplement, c'est parce que le Barça ne pouvait pas l'assurer qu'il allait pouvoir être inscrit dès la première journée. Mais il a bien fait, parce que Olmo n'avait pas pu être inscrit. Chiesa, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas venu parce que le Barça ne peut pas l'inscrire. Et là, Olmo, on vient d'apprendre que le Barça a trouvé... Alors, ils n'ont pas forcément de très bons recruteurs, mais ils ont un très bon service juridique qui a bien regardé les règles de la Liga et du fair play financier de la Liga. Et nous avons l'article 77 qui fait qu'en fait, un joueur blessé de longue durée, on peut profiter de 80%... On peut, en gros, enlever... de la masse salariale, 80% de son salaire. Parce que c'est vrai qu'en général, il y a des assurances qui prennent en charge, le salaire du joueur. Christensen s'est blessé, tendon d'Achille. On parlait d'un mois, deux mois. Bon, là, c'est 4 mois. Ah, et 4 mois, ça permet d'inscrire Olmo.
Arrangeant.
Je ne sais pas. En Espagne, là, on rigole beaucoup ce soir par rapport à ça. En tout cas, le Barça a trouvé la manière de pouvoir inscrire Olmo. Ils n'ont toujours pas libéré assez de masse salariale pour inscrire Olmo. Mais ils peuvent le faire parce qu'il y a cette blessure qui deviendrait de longue durée de Christensen. Sauf qu'une fois que Christensen est remis, eh ben, la question Olmo de l'inscription revient. Ça laisse quand même 4 mois au Barça pour. Et si la blessure, elle est moins longue, on imagine 2 mois et demi. Bon, on espère qu'en 2 mois et demi, ils auront trouvé la solution financière pour pouvoir inscrire. Pourquoi c'est compliqué? Alors, en fait, le fair play financier.
Comment pas, le joueur, il n'est pas inscrit pour la saison?
Alors, c'est-à-dire que. Non.
Il est inscrit pendant 4 mois, alors.
Et pendant 4 mois, le temps de l'absence du joueur. C'est l'article 77 qui permet l'inscription, le temps, parce que pendant ce temps-là, en fait, le salaire de Christensen n'existe pas dans la masse salariale, puisqu'il est pris en charge par les assurances. Donc 80% de ce montant-là, peux l'utiliser pour le déduire de ta masse salariale. Pourquoi c'est compliqué d'inscrire des joueurs? Parce que pourquoi c'est plus compliqué d'inscrire un joueur qui a été acheté? parce qu'il y a l'amortissement. C'est-à-dire que dans, c'est un peu compliqué, mais j'ai reçu plein de messages sur Insta et sur, sur Twitter. J'ai dit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le truc? C'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas que ton salaire qui entre dans le, dans le calcul de la masse salariale. Il y a aussi l'amortissement en espagnol. L'amortissement de ton achat. C'est-à-dire, tu payes un joueur 70 millions d'euros, sur 5 ans, et ben, tu divises 70 millions par 5, et ça, ça s'ajoute à son salaire. Donc voilà. Donc c'est pourquoi c'est compliqué. Par exemple, pourquoi l'anglais, par exemple, bon, ils ont, le Barça a réussi à, l'anglais était revenu de prêt. Là, il va être prêté à l'Atlético. C'est plus facile pour l'Atlético de l'inscrire parce qu'il n'y a que son salaire à inscrire et pas l'amortissement de son transfert. J'espère que c'est clair parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est un casse-tête. C'était très compliqué. Il faut reconnaître que le Tebas a plein de défauts, mais son fair play financier, ça permet de sauver les clubs de la banqueroute. Donc, on a pris trop de risques en Espagne. Il y a plein de clubs qui ont failli disparaître. Donc, c'est très, très dur. Alors, ça a été un petit peu relâché cette saison sur sur ce qu'on peut déduire, etc. Notamment quand il y a une augmentation de capital, mais ça reste très très compliqué.
Donc je fais un scénario. Olmo fait 4 mois extraordinaires. L'autre, Christiansen, revient. On va lui dire quoi ? Eh, va te reblesser, toi. Ça nous arrangerait parce que sinon, c'est un peu ridicule quand même. Pardon.
Oui, mais il fallait trouver une solution juridique. C'est légal, une solution juridique qui permet. Qui permet à Olmo, qui a déjà loupé 2 matchs, de jouer demain soir à Vallecas, donc au Rayo Vallecano, avec le Barça. Donc c'est très très compliqué ça. Parce que le problème c'est que le Barça a de l'argent frais qui arrive. C'est-à-dire que le Barça avait activé des leviers, vous savez, avec Barça Studio, etc. Sauf qu'il y a de l'argent qui est pas arrivé. Il y a des parts qui ont été vendues qui n'ont pas été payées par l'acheteur. Donc il y a aussi des dettes, on doit de l'argent au Barça de la saison dernière. Donc le Barça essaie désespérément de trouver de l'argent pour respecter les règles. Donc c'est raison pour laquelle il n'y a pas eu Nico Williams, il n'y a pas Chiesa, qui a Olmo, mais que c'est compliqué pour l'inscrire.
Hansi Flick, mon cher Polo, est-ce qu'en Allemagne on regarde ça de près ou on s'en fout? Ou alors c'est le nouveau Bernd Schuster expatrié?
Non, en Allemagne, déjà, il y a pas mal de coachs allemands qui ont coaché en Liga, faut pas le dire non plus, en dehors des joueurs. Mais ce qui est impressionnant, si tu veux, c'est, je vais un peu répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'Hansi Flick en Allemagne reste ein Rätsel, une énigme. C'est quelqu'un, on se rend pas compte, on avait quasiment oublié sa carrière de joueur alors qu'il était au Bayern dans les années 80 et finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et surtout, il n'entraînait jamais. Et finalement, on se rend compte qu'il était dans toutes les affaires qui comptaient dans le football allemand, puisqu'il était, par exemple, à l'époque où Salzbourg n'était pas encore le Salzbourg de maintenant, mais il était entraîneur adjoint de Trapattoni. Lorsque Joachim Löw est devenu champion du monde, qui s'occupait, était son entraîneur adjoint? Eh bien, c'était Hansi Flick. Qui était l'entraîneur adjoint de Niko Kovac à l'époque au Bayern avant de lui piquer sa place? Ben, c'est Hansi Flick. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a échoué en équipe d'Allemagne en tant que coach. Et donc, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'Hansi Flick, c'est un peu le sous-estimé du football allemand, mais il est là dans tous les clubs en équipe nationale qui ont compté sur les 15-20 dernières années. C'est quoi? C'est Hoffenheim, où il a été directeur technique aussi. Il avait d'ailleurs commencé comme entraîneur à l'époque où Hoffenheim était encore en division amateur. Et il a été évidemment au Bayern, il a été en équipe nationale, il a été dans la galaxie Red Bull. Et donc toute la révolution du foot allemand, Hansi Flick était hyper présent, même s'il n'était pas forcément devant en première ligne. Donc le fait, on souhaite évidemment, et alors là, encore une fois, c'est la pub du football allemand, si Hansi Flick allemand réussit au Barça, ça rejaillit évidemment, comme Jürgen Klopp l'a fait en première ligue, sur le football allemand. Donc ça, les Allemands sont très très friands, en tout cas la presse allemande est très friande de ça.
La minute de Johan Crochet. Le petit rap napolitain du lundi soir.
Et non, Milanais.
Ah, Milanais, pardon.
Club Dogo Soli à Milano, groupe de rap donc milanais. Milan pour parler de Dakan Çalhanoğlu, évidemment. Alors, c'est pas pour son but sur penalty contre Lecce ce week-end, c'est pas vraiment pour ça qu'on fait une minute. Mais par contre, au nord du fait que 17 penalty en Serie A, 17 marqués, hein, pas mal, plutôt fiable. Mais c'est encore son rayonnement sur le terrain. C'est à la récupération, évidemment, puisqu'il joue 6 maintenant. Donc il y a toute la tâche défensive qu'il fait vraiment bien, de l'agressivité, couper les lignes de passe, très bien se positionner devant la défense pour couvrir ses défenseurs centraux et aussi essayer de simplement éviter que le jeu adverse progresse et arrive dans les 30 derniers mètres. Ça, il a vraiment beaucoup progressé. évidemment l'utilisation du ballon, mais en tant qu'ancien numéro 10, c'est presque normal de savoir très bien utiliser le ballon. Je cours, je long, gérer le rythme et le tempo, être en capacité de faire des différences balle au pied, de trouver ses coéquipiers en mouvement. C'est un joueur qui n'est peut-être pas assez reconnu en Europe. Une des plus belles reconversions de numéro 10 en 6, dans un pays qui a quand même quelques exemples plutôt sympas, je pense évidemment à Pirlo, à Verratti et à d'autres. C'est marrant parce que parfois on reconnaît le talent des joueurs, on le voit. Polo, tu le connais bien, Çalhanoğlu entre Hambourg, Leverkusen. Il y a beaucoup de qualités, des défauts aussi très apparents à l'époque. Je pense que si on t'avait dit, comme à moi, hein, que ce joueur-là deviendrait un numéro 6 imposant et qu'il aurait une telle qualité dans le jeu sans ballon et dans le jeu défensif, je suis pas sûr qu'on y aurait cru tous les deux.
Bah ouais, mais il y en a un paquet comme ça de joueurs au passage, hein, qui font finalement des carrières à maturité lente, comme on dit maintenant, et je trouve ça très intéressant, en plus dans les évolutions de poste. Mais tu as tout à fait raison.
Bon, voilà pour la minute de Johan. Dans un instant, Chelsea qui éclate Wolverhampton. On en parle avec Julien Laurent.
Juste Gilbert, oui. La Juve mène 2-0 à Vérone.
Ah, déjà. Ah,
oui. Premier but.
Ah, ouais, déjà, tu me diras, ça fait 42 minutes. Oui.
Exactement. Et le point commun des deux buts, attitude des joueurs sans ballon. Pressing de Locatelli sur le premier, arrachage de ballon dans les 30 mètres de la Juve, et ensuite la justesse technique, notamment d'un Yildiz pour orienter le jeu. Vraiment, c'est séduisant, cette Juve de Motta.
Il est passé de Sassuolo à Juve, celui-là. En passant par l'Atalanta.
Ah, ça.
Pam, pam, pam.
Eh oui.
Allez, à tout de suite dans l'after.
Sans qu'il n'y a plus Allegri. Hein.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
Il est 21h32, les drôles de l'âme, jusqu'à 22h comme tous les lundis. Plus la Ligue 2. Petit point sur Red Star Ajaccio, Clément.
On vient d'annoncer le temps additionnel, Gilbert. 3 minutes en plus et 1-0 toujours pour le Red Star pour son retour en Ligue 2 avec l'ouverture du score. Oui, en première mi-temps, bien sûr, de Samuel Reynel qui est venu couper un très bon centre de Ben Ali. Après donc 3 minutes de jeu, le Red Star qui pour l'instant réussit son retour en Ligue 2 juste quelques secondes avant la pause.
Le club des Cowboys de Chelsea, vous connaissez ? Bon, quand tu dépasses les 45 joueurs sous contrat, c'est comme du football américain. Voilà. Ils sont comme ça, nos frérots. Hein.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Bon, en même temps, ils ont ça ruisselle, hein, comme dirait l'autre, puisque Strasbourg a dépensé plus de 60 millions là, quand même.
Tout à fait. J'ai pensé à toi.
En mercato, bon, je le glisse comme ça au passage. Ça n'a rien à voir avec les drôles de l'âme. Mais Chelsea a gagné largement, donc avec son effectif pléthorique, parfois ça marche.
Ouais, 6-2, un score de tennis, vraiment à Wolverhampton, dans un match assez incroyable finalement du début à la fin. Est-ce que c'est assez pour dire que la saison de Chelsea est lancée sous Enzo Maresca, malgré les conditions un petit peu difficiles, tu l'as dit, l'effectif pléthorique, il devrait y avoir encore des mouvements d'ici à la fin du marché de transfert aussi. Je sais pas, c'est encore un petit peu tôt, j'imagine. On avait vu Pochettino et Chelsea gagner contre Luton, un des promus la saison dernière, 3-0. Et à ce moment-là, en début de saison aussi, on pensait que c'était lancé. Et puis finalement, ça avait rien lancé du tout. Donc on va attendre un petit peu. Ce qui est vrai, c'est que ce match-là a montré les bonnes choses de Maresca. Il y en a quand même, que ce soit individuellement ou collectivement d'ailleurs. On avait parlé un petit peu des bonnes choses de Chelsea déjà après la première journée. Et puis aussi, tout ce qu'il y a encore à travailler, il y a un chantier assez incroyable, notamment défensivement. Ou pour un match que tu gagnes 6-2, je sais, mon Gilbert, que t'adores les expected goals et les stats, etc. Mm-hmm. Mais sur ce match-là, donc, il marque 6 buts et Wolverhampton que 2, à domicile, Wolverhampton. Mais ils ont un expected goal supérieur à celui de Chelsea, à Wolverhampton. Ils ont beaucoup de grosses occasions que eux ne concrétisent pas, alors que Chelsea, eux, ont été très efficaces. On a vu Cole Palmer avec un très joli lob, et qui fait ensuite 3 passes décisives pour Noni Madueke, qui marque 3 buts en un triplé en 14 minutes. En début de seconde période, qui change forcément la dynamique du match, parce qu'il y avait 2-2 à la pause. 15 minutes après, tu te retrouveras à mener 5-2, donc c'est complètement différent. Joao Félix marquera ensuite le sixième but. Mais donc voilà, il y a des choses très bien, notamment la relation Palmer-Madueke. On a vu Palmer dans l'axe alors qu'il avait joué à droite contre Manchester City, par exemple. Donc il y a des choses avec ballon en phase offensive que Maresca fait plutôt bien dans la circulation. Encore une fois, trouver ses ailiers très rapidement, la percussion à droite comme à gauche. Même si à gauche, Mudryk, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'ils cherchent peut-être à faire signer Jadon Sancho. Donc ils vont rivaliser avec la Juve pour voir s'ils peuvent attirer Sancho à Chelsea. Mais sinon, du très très bon avec ballon, et notamment quand Cole Palmer est dans cette forme-là. Lui qui, quelques jours avant, avait été élu jeune joueur de la saison passée, il aurait dû être dans l'équipe type de la saison, il l'a pas été, je sais pas trop pourquoi, mais bon, il a fait un match exceptionnel, vraiment exceptionnel, Madueke aussi. Et après, défensivement, où tu prends vague après vague parfois, où tu perds complètement le contrôle et du ballon et de l'espace, qui est peut-être le plus alarmant, entre guillemets, on va dire, c'est de perdre le contrôle de l'espace. C'est-à-dire que t'es complètement perdu face à une équipe comme Wolverhampton, qui est quand même loin d'être à foudre de guerre. Donc voilà, beaucoup je dois travailler encore, mais c'est vrai que cette victoire-là, elle va faire beaucoup, beaucoup de bien à Maresca. Déjà, on va arrêter de lui poser des questions sur l'effectif. Et surtout, il va pouvoir, j'espère, mettre en place enfin ce qu'il veut avec ballon et surtout défensivement sans ballon pour trouver la bonne solution.
Bon, ben, on suit Chelsea de très près, parce que c'est les frérots. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Ben, surtout Chelsea, il a beaucoup, beaucoup de frérots quand même. Il y a du monde à Chelsea.
Ah bah oui.
Ah bah là,
il y en a qui vont partir. Hein. Dis ça, si, c'est compliqué. Voilà, il y en a qui vont partir. Mais
ils sont
voilà,
combien Gusto, là, à peu près. Voilà.
6 Français, je crois, encore. Ogo Chouekou est parti en prêt. Donc, il reste encore Nkunku, Fofana, Gusto, Dis ça, si, Badiachil. Ouais, ils sont quand même encore, ils ont hein, la petite colonie française.
Et l'ensemble de aujourd'hui, l'effectif, c'est combien?
Donc, j'ai pas trop recompté avant, mon Fredo, mais on doit être encore au-dessus de 40. Mais Mariscal a dit, l'autre jour, il a dit, mais moi, je travaille pas avec 40, mais ça, on savait bien. Enfin, j'espérais pour lui qu'il travaille pas avec 40 joueurs, parce que alors là, c'est la colonie de vacances. Mais qu'il travaille qu'avec 22, 23 joueurs. Mmh. Heureusement, les autres, ils sont à part, sur un autre terrain. Mais voilà, c'est le plus gros loft de l'histoire des lofters, déjà, des lofts. Quand on a un à Lyon, il y a 5 joueurs. À Marseille, il y a 5 joueurs. À Chelsea, ils sont 20 joueurs. Donc, c'est compliqué, forcément.
Tiens, parlons quand même d'Haaland, qui a brillé ce week-end, Julien.
On va triplé contre Ipswich à domicile, une victoire facile, même s'ils se sont retrouvés menés 1-0 à domicile, les Citizens. Mais c'était intéressant, enfin c'était marrant, parce que Ipswich est le 23e adversaire donc de première ligue contre qui Haaland marque. Donc il a marqué contre toutes les équipes contre qui il a joué. Donc tu peux, voilà, alors là les deux autres promus qui sont Leicester et Southampton étaient déjà en première ligue avant, donc il avait déjà marqué contre eux, mais Ipswich était nouveau. Et Ipswich est donc la 23e victime, on va dire, entre guillemets, d'Erling Haaland qui a commencé la saison sur les chapeaux de roue. 2 matchs, 4 buts. Cette impression de puissance,
c'est incroyable. Si je calcule bien, ça fait 94 buts en 102 matchs, c'est ça?
C'est ça.
Donc, à 80. Donc je me remémore les joueurs et entraîneurs qui ne voulaient pas d'Haaland comme attaquant au nom de je ne sais quoi, mais je trouve ça fou.
Le débat dont on avait parlé aussi beaucoup, est-ce que cette équipe de City, on se rappelle de Jamie Carragher, lors de la première saison d'Haaland, après quelques journées, disant mais ils sont meilleurs sans lui. Parce qu'il touche pas assez le ballon, il participe pas assez au jeu dans la construction.
Est-ce que tu peux me confirmer que Guardiola a dit...
À chaque fois qu'il y a une méga star, t'as toujours le truc, ouais, sans lui, ou avec lui à ce poste-là, etc. C'est comme si avoir des très bons joueurs était toujours un problème. C'est
Juju, est-ce que tu peux me confirmer que Guardiola a dit que la statistique du nombre de buts par match n'est pas importante?
Oui, il a dit quelque chose comme ça, oui.
Donc ça veut dire que je peux jouer pour Manchester City, alors? Ça veut dire ça, en fait. N'importe quelle personne peut jouer pour Manchester City à la place de Haaland, ça veut dire ça.
Bah après, il y a un moment, ce qu'on disait avec Lewandowski, un moment, le ballon, il passe la ligne ou il passe pas la ligne.
Mais bon, c'est pas grave. On est trop vieux, Fred.
Ouais. Ah bah oui, mais les gars, c'est comme ça, c'est les expected goals, tout ça, il faut vous mettre à la page.
Ouais. Non, mais moi, j'essaie de traduire ce que dit Guardiola, quoi. Si le mec, il dit, c'est pas important ce genre de statistiques, ben ok, donc ça veut dire que je peux jouer, quoi.
Pour moi, la seule statistique qui compte, c'est celle-là, justement.
Tout Guardiola, il est jamais à l'abri de dire une connerie comme tout le monde, je veux dire, c'est pas.
Non, mais c'est aussi pour dire que c'est pas que Haaland, quoi, dans cette équipe-là. Et il a raison, dans un sens.
C'est un message à caractère interne, en fait, c'est ça.
Oui, mais pourquoi le message à caractère interne, il est toujours externe? C'est-à-dire que moi ce que j'adore chez Guardiola, c'est quand il veut dire un truc, il faut que les caméras du monde entier, les micros du monde entier soient là. Ouais, les entraîneurs que j'apprécie, que je connais, ils disent les choses interne.
Là, tu fais ta petite catalanite du lundi soir.
Non, c'est ma guardiolite.
Non, c'est la catalanite. Je la connais, catalanite depuis quelques années. Elle peut ressortir comme ça, c'est éruptif, pam, puis disparaît. Mais Guardiola, dès qu'il y a une conf de Guardiola qui ouvre la bouche, tout le monde va écouter ce qu'il dit.
Non, mais même après, quand il fait ça, il adore, mais. Tu sais, Mourinho était un peu dans le genre aussi. Hein. Mourinho, dans le genre, il disait beaucoup plus de trucs devant l'écran en conférence de presse que face aux joueurs dans les vestiaires. Mmh. Tu sais, on peut en raconter là aussi. Hein. Moi, les vrais entraîneurs, les mecs que j'aime, ce sont les mecs qui parlent en interne.
Qui mettent des pains.
Ouais, mais en privé, dans le bureau, porte fermée. Voilà. Pas des cala la galeria, comme on dit en français, en espagnol. Pas devant pour la galerie.
Pour amuser la galerie.
Pour amuser la galerie en français.
La minute de Paul Obrecht, s'il vous plaît. Va falloir nous expliquer quand même.
Bah écoute, ça vient juste d'arriver.
Oui. C'est le chanteur de Air Commissaire, non?
Ouais, c'est Falco. Ah ouais. C'est, la chanson, c'est Ganz Wien, donc tout Vienne. Et c'est une chanson sur la cocaïne. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est parce que j'ai reçu un gros choc sur la tête hier, puisque l'une de mes références allemandes en tant que coach est décédée. C'est Christoph Daum, qui est un personnage particulier du football allemand, qui dans toute sa vie a voulu abattre tous ceux qui étaient plus forts que lui. Donc il a voulu abattre Rome, il a voulu abattre le RC Bayern. C'était un personnage, quand j'ai parlé avec différents journalistes il y a quelques années de lui, qui disait qu'on n'avait jamais vu un entraîneur comme lui en tant que motivateur d'équipe, qui avait des phrases toujours un peu particulières, très bon en conférence de presse. À l'époque, déjà, on commençait à parler du pressing, tu vois, donc ça faisait 30 ans maintenant. Et c'est quelqu'un qui a disparu victime du cancer. Il avait d'ailleurs une célèbre phrase là-dessus qui disait, quand il l'a déclaré, parce qu'il a fait beaucoup de pubs là-dessus, ça a été utilisé d'ailleurs pour aider les personnes malades du cancer. Il disait, mais le cancer, il a choisi le mauvais corps, le mien, il est intouchable, etc. Malheureusement, le cancer, évidemment, a gagné, le crabe. Et
si tu parles Christophe... de cocaïne, c'est parce qu'il avait un peu le...
Non,
le
mais il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui, qui a été champion d'Allemagne en 1992 avec Stuttgart, qui a fait donner naissance à Wiskusen, parce qu'il était à Leverkusen le coach, et qui perdait à chaque fois contre le Bayern. Je rappelle juste qu'au Lyonnais, son ennemi intime, avait dit une fois, ich mach dich fertig, qui veut dire je vais te détruire. Je vais te détruire complètement, pour voir l'opposition frontale qu'il y avait entre Uli Hoeness et Christoph Daum. Et évidemment, il y a eu la fameuse cocaïne affaire en 2000, puisqu'il devait prendre la sélection allemande. Alors on savait qu'il consommait déjà, parce qu'il y avait déjà dans les années 90 des articles qui étaient sortis de médias de droite, comme par hasard. Je dis de droite parce que on sent les filiations avec Uli Hoeness, évidemment, dont on dit que c'est lui, c'est pour ça que je vous parle de ich mach dich fertig, je te veux te détruire, qui, si tu veux, appuyait à chaque fois que ce n'était pas possible que Christoph Daum puisse devenir sélectionneur de la sélection allemande. Donc il a fait des tests capillaires, ce cher Christoph Daum, où on a évidemment confirmé qu'il consommait de la cocaïne. Il ne faisait pas que consommer de la cocaïne, il aimait bien aussi les tarifs avec les femmes. Il disait d'ailleurs très clairement...
Dans le football, étonnant.
Oui, dans le football, il faisait des soirées très spéciales. On m'a d'ailleurs raconté, à l'époque où il était coach en Turquie, les soirées qu'il faisait, etc. Mais au-delà de ça, il y a le coach qui était assez extraordinaire, parce que révolutionnaire, et il y avait tout ce qui était à côté, le mec qui était, comme le titre de son autobiographie, « Immer am Limit », toujours à la limite. C'était un truc génial. Moi, je m'en remets pas. C'est le genre de coach qui disparaissent et qui disparaît et qui me demande encore ce que je fais dans le monde du foot, quoi. Je le dis très sérieusement. Parce que c'est des pages qui se tournent complètement, et Christoph Daum restera une référence pour moi, pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il disait toujours et jamais l'entraînement doit être le même. Il demandait à ses joueurs de marcher sur du verre pilé, etc. Enfin, c'était un truc de fou dans une autre époque.
Et, sérieux,
par
ça?
Rapport à, ben ouais, par rapport à ce, tu peux aller sur ma page, sur mon Twitter. Si tu veux, je te montrerai des photos. Et moi, ce mec-là, bon, voilà, il est au-dessus du niveau. Et je me rappelle quand on lui parlait des intellectuels, il disait, et il y avait une phrase qui me plaît beaucoup chez lui. Il disait, ouais, non, mais je vois bien, il y a des parents qui éduquent leurs enfants avec du bilinguisme. Moi, j'essaie juste que mes joueurs aient les deux pieds. Et il y a des petites phrases comme ça que je trouvais extraordinaires. Et encore une fois, c'est une autre période du football allemand. C'est pas un football de prépubère, c'est pas un football pour les eunuques, c'est autre chose, c'est très différent. L'opposition avec Uli Hoeness fait partie de la Bundesliga. Tous les gens qui nous écoutent peuvent aller voir les vidéos où il allume Uli Hoeness, et réciproquement. D'ailleurs, Christoph Daum disait toujours, vous ne m'attaquez jamais sur le football, monsieur Hoeness, vous m'attaquez toujours sur ma vie extra-conjugale ou sur ceci et tout ça. Mais Christoph Daum, ben, quand je regarde la tête des coachs aujourd'hui et leur communication, ben voilà, quoi.
Et lequel des deux était en tôle?
Alors attention, il y en a un qui a été en taule, mais l'autre aurait dû y aller aussi. Non, mais l'autre, il y avait des histoires assez extraordinaires, notamment avec les prostituées, avec certains brigands, on va dire ça comme ça. Il disait aussi, mais je paye, oui, mais je ne réponds pas au chantage. Donc, il y avait des trucs assez extraordinaires. Et voilà, Christoph Daum était un mec monstrueux qui a aussi coaché en Turquie, en Autriche, etc. Et jusqu'on va dire jusqu'au début des années 2000 et cette fameuse cocaïne affaire. C'est un mec qui m'a influencé, d'autant plus que j'étais en Allemagne à l'époque et voilà, c'était Christophe Daum. Et c'est pour ça que je dis souvent, je pense à Julien, Welcome to the Pleasure Dome. Voilà, c'est ça.
Hussein, notre célèbre, enfin notre fidèle supporter qui suit de près le championnat turc, nous dit je suis très triste, c'est le seul coach avec Fenerbahçe qui nous a permis de remporter deux titres de suite en 2004 et 2005, dit-il, rappelle-t-il. Dans un instant, Stuttgart, messieurs, dames. Alors, quand je fais un teasing en disant Stuttgart, ne changez pas de radio, vous allez voir, c'est très intéressant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Gilbert Bribois.
Les drôles de l'âme jusqu'à 22h comme tous les lundis. Et ensuite, l'after qui viendra, qui arrivera pour la Ligue 1. Ça va parler mercato dans l'after ce soir. PSG, Monaco, Nice, élection à la Ligue, notamment au programme de l'after dans un petit quart d'heure. Mais on vous l'a dit, le tirage au sort de la Ligue des Champions arrive en fin de semaine, là, après les barrages. Et bien sûr, on aura la composition, enfin, le calendrier, parce qu'il n'y aura pas de composition des groupes, c'est parce qu'il y a un seul groupe. Hein. Donc on aura le calendrier général déterminé. Terminé par l'ordinateur qu'on aime déjà beaucoup, on verra ce qu'il décide. Et il y aura Stuttgart. Et oui, c'était une sorte de surprise de la saison dernière de Bundesliga, parce que c'était plutôt un club de galériens, Stuttgart, ces dernières années, Polo.
Alors ces dernières années, oui, maintenant c'est un club, enfin il y en a beaucoup comme ça en Allemagne, qui tourne autour normalement historiquement de la cinquième place du championnat, mais dès qu'il gagne quelque chose, eh ben, il se retrouve en deuxième division l'année d'après. Et Stuttgart a beaucoup de soucis pour se stabiliser, j'ai envie de dire, derrière Dortmund, Leipzig et le Bayern et Leverkusen en ce moment. Et puis il y a quand même un coach qui, on vient de parler de l'oncle, excusez-moi, Uli Hoeneß. Là c'est Sébastien Hoeneß qui a fait un boulot extraordinaire pour ramener cette équipe en Ligue des Champions l'année dernière. Et je ne sais pas si mes collègues se souviennent, mais Nico Jamin nous avait demandé l'équipe qu'il fallait suivre l'année prochaine, on était l'année dernière. Et moi, j'avais dit, je vais voir le mercato de Stuttgart parce que j'ai très, très peur sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient prêtés. Finalement, Nübel reste pour une deuxième saison et même une troisième normalement. Ils ont acheté Undav qui était prêté par Brighton, plus de 25 millions quand même, ce qui est énorme pour Stuttgart. Ils ont évidemment perdu Girassi, Ito qui est parti au Bayern, Anton qui est parti à Dortmund. D'ailleurs, petite polémique en Allemagne, puisqu'on dit toujours que c'est le Bayern qui pique les autres bons joueurs des clubs. Finalement, Dortmund aime bien faire son marché aussi chez Stuttgart. Et donc, ils ont réussi un mercato à peu près potable, j'ai envie de dire, qui font que normalement, ils devraient être compétitifs en Ligue des Champions. J'avoue que j'ai le modus operandi de cette saison, j'ai pas trop regardé. Et je sais que j'ai vu que c'était des tirages au sort, mais je sais pas si c'est fort faible et tout ça. Donc, j'attends les
un peu de voir dans le détail. Une équipe de tous les chapeaux, en fait.
Ouais, c'est ça. Il y a différents chapeaux. Donc, comme ils sont pas en Europe depuis plusieurs années, ils risquent d'être un peu pénalisés par le classement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une équipe compétitive. Première journée compliquée à Fribourg dans un derby du Bad Württemberg où on a eu un petit peu un Stuttgart un petit peu à l'image de cette première division pour l'instant, excellent en première période avec un excellent but de Demirovic, très beau but de Demirovic que je connais bien, qui est un ancien de Peter Zeidler, notamment à Saint-Gall, et qu'ils ont acheté pour plus de 20 millions. Par contre, c'est pas Guirassy, c'est pas le même profil, et par contre après ils se sont écroulés, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il faut absolument qu'ils aillent chercher un défenseur central d'ici la fin du mercato. En tout cas, ce Stuttgart de retour en Ligue des Champions. On a beaucoup parlé l'année dernière de Leverkusen dans le jeu. Je sens que ça peut être la même chose cette année du côté du jeu, du côté de Stuttgart. On va pas dire pour les quatre premières places, mais ce serait bien qu'ils se stabilisent en Europa League ou en Europa Conference League, en tout cas, qu'ils continuent à montrer qu'ils sont là. Et je pense, par rapport à Sébastien Hoeneß, qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est très, très intéressant à voir Stuttgart. Évidemment, pas la seconde période qu'on a vue à Fribourg.
J'ai les chapeaux sous les yeux, là. Enfin, ils ne sont pas tous déterminés, vu qu'il y a encore les barrages retour à jouer, mais Stuttgart sera bien chapeau 4.
Chapeau 4,
oui. Comme Brest, il y a que 4 chapeaux. Bien sûr. Oui, il y a 4 chapeaux.
Et Bologne ?
Bologne sera chapeau 4. Ah. Et Monaco sera chapeau 4.
Et Gérone, chapeau 4.
Et Gérone, chapeau 4.
Attends, il y a là aussi.
Et Brest, chapeau 4. Brest qui a le plus petit indice UEFA du plateau. Aston Villa aussi, t'as raison. Et pour compléter, le seul qu'on n'a pas cité, c'est Sturmgrass. Ça, c'est la zone polo, ça, c'est les Autrichiens.
Ouais, mais oui, très bien.
Voilà. Mais bon, on attend maintenant encore le premier qui pourrait repasser dans le chapeau 3, c'est Monaco en fonction des qualifs de barrage là à suivre cette semaine. Les gars, on a encore quelques minutes, donc il y a quelques points d'actu que je voulais voir avec vous. Julien, est-ce que tu as des news sur Everton et Textor?
Oui, c'est vrai, on voulait en parler l'autre soir parce que le plus important pour l'instant pour John Textor, c'est qu'il ne peut pas être le propriétaire d'Everton alors qu'il a déjà des actions à Crystal Palace, parce qu'on sait qu'il a 45% à Crystal Palace, donc il doit vendre ces 45% là. Il avait acheté 40% d'abord aux alentours de 95 millions d'euros, je crois, puis il avait rajouté 5 autres pourcents un peu plus tard. Donc je crois que ça lui avait coûté environ 110, un truc comme ça, 110 millions d'euros. Il a eu une première offre de rachat des deux autres propriétaires de Crystal Palace autour de 170 millions d'euros. Et j'ai l'impression qu'il veut un peu plus, notre ami JT, là, John Textor. Et donc il attend un petit peu. Le problème, c'est plus il attend pour vendre Crystal Palace et moins il aura temps pour finaliser l'achat d'Everton. Il semble vraiment, vraiment intéressé par Everton. D'ailleurs, c'est le seul candidat qui reste à cette reprise que le groupe 777 avait longtemps été le candidat principal, alors que c'est du grand n'importe quoi, comme on le voit en ce moment au Restart ou chez les copains aussi, parce qu'ils ont des clubs un peu partout et c'est à la dérive complète. Donc voilà, c'est lui le principal maintenant candidat pour Everton, mais avant ça, il doit vendre d'abord à Crystal Palace.
Il n'y a donc pas d'infos nouvelles.
Non, ça devrait se faire, mais ça va prendre un petit peu de temps, je pense.
Bon, parce qu'à Lyon, on suit ça de près, vu que tout part en vrille à Lyon, évidemment. Fred, tu voulais nous parler de Dani Ceballos, il y a peut-être une info transfert.
Oui, alors Dani Ceballos, joueur milieu de terrain offensif du Real, très technique, on parle de lui à Monaco. Alors Monaco est intéressé, le Betis est intéressé. Moi j'aime beaucoup le joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur technique, ultra technique comme j'aime. On peut dire que c'est un numéro 10 en fait, hein, voilà, c'est comme on les aime à l'époque. Pas forcément un esprit, pas forcément très très intelligent dans sa communication, etc. Mais je pense que pour Monaco, ça peut être un très très bon joueur. Et là, il sait très bien qu'il va très très peu jouer cette saison, voilà, au Real Madrid. Donc, il est en train de discuter avec le Real, de savoir s'il peut y avoir un transfert ou un prêt. Donc, le Betis et Monaco sont sur les rangs. Sincèrement, je pense que Monaco serait une destination qui pourrait lui plaire, qui pourrait lui plaire. Parce que voilà, mais je pense que pour Monaco c'est très bien parce que c'est vraiment un très bon joueur.
Tiens, d'ailleurs, point mercato les gars, là, un peu tout ce qui reste, il reste une grosse semaine en Italie. Tu t'attends à beaucoup de choses ou une dernière semaine un peu calme?
Ouais, il y a quand même des choses à faire du côté du Napoli de Conte qui réclame des joueurs. Il y a des choses à faire du côté de la Roma. On l'a expliqué tout à l'heure dans l'émission. Cup Miners entre l'Atalanta et la Juve. Sancho peut-être à la Juve. Milan qui va peut-être faire un coup au milieu de terrain. On pense beaucoup à Manu Koné par exemple. De Gladbach, non, il y a encore pas mal de choses à faire en Italie.
Ouais. En Allemagne, la dernière semaine de mercato.
J'ai très peur pour Leverkusen, qui est la vraie belle surprise pour le moment du mercato, parce que personne n'est parti. Ce qui est une véritable surprise, parce que comme je le disais la semaine dernière, apparemment dans les bureaux, on aimerait bien faire des plus-values quand même. Les financiers aimeraient bien le faire quand même. Rappelons que Leverkusen appartient à la multinationale Bayer. Du côté du Borussia Dortmund, il pourrait y avoir encore quelque chose. Il y a donc le départ de Leverkusen, côté Stuttgart, l'arrivée d'un défenseur central, c'est sûr, lequel on verra. Qui Leipzig, non, ça devrait être tranquille. Le reste, ça vous intéresse pas forcément, mais attention à Francfort cette année.
Tout nous intéresse, nous. Hein. Bon, après, c'est sûr que si tu nous vends le deuxième gardien de l'Union de Berlin, bon, c'est pas le truc le plus fou, mais.
Alors écoute, je suis très en colère contre Union Berlin, surtout après la prestation de ce week-end. Alors ne commence pas cette saison comme ça, mon cher Gilbert.
Très bien. Non, mais tu n'avais pas cité Union Berlin depuis le début de l'émission.
Mais justement, la batte de baseball est prête.
Oh là là.
La batte de baseball est prête et voilà. Donc je vais m'énerver.
Polo, voyons. Un petit mercato en anglais, chaud la dernière semaine ou pas trop, Julien?
Oui, si, toujours. C'est là aussi où t'as les fameux panic buy. Où quand t'as un club comme Everton, par exemple.
Anglais, comme on les aime.
Voilà, tu sais, tu les aimes, mon Gilbert, où t'as pris deux fessées sur les deux premières journées. Ben, tu te dis, il faut que j'achète Bribois, Hermel, Crochet, tout ça, quoi. Tu vois, des prix exorbitants. Donc, je pense que vos téléphones vont sonner bientôt. Mais oui, il y aura ça. Et puis, il y aura un petit peu, on a dit, Jadon Sancho qui semble entre Chelsea, peut-être, et la Juve. Je pense que Arsenal, ça devrait se faire pour Mikel Merino, par exemple. Liverpool, on attend peut-être aussi. Ouais, ça c'est un bon joueur. C'est vraiment une. Je pense que ça devrait ça. Donc voilà, oui, il y aura encore chez les grands et chez les petits. Donc gardez vos téléphones près de, voilà, à côté de vous. Polo et Fred, ils vous en parlaient tout à l'heure, ils pouvaient encore jouer. Donc voilà.
Ouais, il y aura toujours un peu de fric à faire.
Il paraît que Neymar a proposé au Barça de revenir cet été.
Oui, enfin.
Fake news?
Ouais, enfin, mais c'est. Mais pour faire quoi?
Bah, je sais pas, en plus,
il joue
encore
au football, lui. Ouais, enfin, Neymar. Après. Le Barça, si je dis pas de bêtises, est-ce que le Barça paye en... enfin, je sais plus quel joueur il paye encore des. Non, c'est Messi, non, c'est pas ça. C'est que le Barça paye encore Messi, il lui donne encore tellement d'argent qu'il le paye encore.
Voilà. La thune du Covid, notamment.
Ouais. Donc oui, parce qu'ils avaient accepté une réduction de salaire, mais enfin, officiellement c'est une réduction, enfin c'était un report. Mais Neymar, sincèrement, je vois pas. Vous trouvez pas que le Barça a suffisamment de problèmes pour pas faire venir Neymar? Parce que Neymar, en général, c'est un peu un nid à merde. Un nid en merde. Comme avait dit un journaliste il y a quelques années quand il avait signé au PSG. Puis il avait eu raison, vous vous souvenez de ça?
Ah oui, je me souviens.
Ouais. On avait dit, mais non, pas du tout.
Je me souviens. Tu avais été précurseur à la matière.
Franchement, c'était pas regarder dans une boule de cristal, il suffisait de voir ce que passait.
Je précise, c'est jeudi le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Jeudi, ouais.
Donc, jeudi, il y a surtout le match de Lens.
Oui, jeudi, il y a aussi Lens en Coupe d'Europe sur RMC, mais enfin, il y a aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions au lendemain des derniers barrages, dont Lille face à Prague.
Bon, ça va passer, Lille.
Mercredi soir, exactement. Ce sera sur RMC. Merci, les gars.
Ciao, gracias.
Merci, le drôle de l'âme. On vous retrouve.
Salut à tous. Ciao.
On vous retrouve, évidemment, dès que l'actu le nécessite. Dans l'after, de 20h à minuit, et puis dans Rotten sans flamme, de temps en temps. Fred était là tout à l'heure, bien sûr. Pour parler de Mbappé, oui, c'est comme ça. Le Red Star face à l'AC Ajaccio, Clément, la deuxième mi-temps vient de reprendre.
Ça a repris depuis 4 minutes, 1-0 toujours pour le Red Star, suite à ce but de Reynel à la 3ème minute. Le Red Star qui a attaqué fort avec une tentative de Durand qui a été repoussée par le portier ACiste, et ensuite c'est Ajaccio qui a tenté de réagir avec cette frappe de Barreto, contrée à son tour. Ajaccio qui pousse avec deux corners successifs. 1-0 pour le Red Star qui revient tout juste en Ligue 2 dans son stade Bauer 26 ans après.
À tout à l'heure dans l'after, merci Fred, Johan, Polo, Julien. L'after continue jusqu'à minuit.
Génération After.